Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission mensuelle de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à tous, vous êtes en direct sur Alternante, 98.1 FM à Nantes, 91 Trignac-Saint-Nazaire, avec la Société d'Astronomie de Nantes pour l'émission mensuelle Pulsan.
On peut leur prouver qu'on est en direct.
Vas-y, oui.
C'est Raffalin qui est premier
ministre. Oui, c'est vrai. Voilà.
Raffarin, pardon, c'est pas Daniel Raffalin.
Raffalin, c'est le président d'Alternante, oui. Voilà. Raffalin est toujours président d'Alternante, hein, et Raffarin est premier ministre.
Donc on est bien en direct, et ça s'entend.
Et ça s'entend.
Comme on dit, et tout à l'heure, le petit couac, hein, c'était pas nous.
Non, non.
Voilà.
Mais bon, ça va. Pulsan continue. Pulsan, vous vous rappelez du titre Pourquoi Pulsan ? Pulsan, ça nous rappelle un peu le pulsar, parce qu'un pulsar, ça pulse, ça vibre, comme la SAN, donc on a fait un petit jeu de mots avec Pulsan. Ça faisait en plus, les pulsars émettent bon, plus dans les rayonnements radio, notamment. Donc c'était un...
Il y a plein de petits clins d'œil.
Voilà.
Nous, on fait pas les choses au hasard.
Parce qu'on nous demande des fois pourquoi vous appelez ça Pulsan, donc on en profite pour le dire.
Voilà.
Aujourd'hui, une émission un peu spéciale, puisqu'on demande toujours un peu de... On aborde beaucoup de thèmes d'habitude dans les émissions. Là, on a décidé de s'étendre un peu sur pas mal de petites choses. Au lieu d'aborder beaucoup de thèmes, on va peut-être en faire...
De grandes choses aussi.
Voilà, de grandes choses. On va en aborder un peu moins et en profiter un peu plus sur chaque thème. Donc, on aura, bah, comme d'habitude, nos petites chroniques, le ciel du mois et les actus astro, sauf que la différence d'habitude, ils seront un peu plus longs que d'habitude. On va leur laisser un peu plus de temps à nos chroniqueurs. Ils sont contents, parce qu'à chaque fois, ils sont obligés de raccourcir ou je leur fais des signes pour leur dire de couper. Là, on va leur laisser un peu plus de temps. Et ça va nous laisser un peu plus de temps aussi pour vous détailler les petites nouvelles qu'on vous donne, notamment bah, la stèle solaire. Je sais pas si vous avez écouté la radio, vu la télé, et puis donc une stèle à voir actuellement. Les petites parties, donc on vous présentera Pierre Simoneau concernant les objets et les phénomènes à voir. On vous reparlera un peu des ciels de Nantes qui sont effectués au mois d'avril, la foire internationale de Nantes aussi, qu'on a, donc où la SAN a participé. Enfin, c'était le seul moment intéressant de la foire, on peut être méchant. Parce qu'il n'y avait pas grand monde.
Si, quand même.
Par rapport aux attentes, il y en avait moins. Mais bon, ça, c'était les polémiques qui tournaient sur le stand de la foire.
Les commerçants disent qu'il y a moins de monde que ce qu'ils attendaient parce qu'ils veulent toujours payer moins de sous.
Tout à fait.
Il y en avait peut-être un peu moins.
Oui, il y avait quand même un peu moins de monde par rapport aux autres années. Et puis, là, déjà, tous les petits, puis les petites dernières nouvelles qu'on vous présentera, notamment la date de la prochaine conférence qui va se dérouler au mois d'octobre. Donc, il y en a pas mal de petites choses à vous parler.
Et il y a une autre conférence dont je vous parlerai.
En plus, au mois de juin, oui. Donc, on a pas mal de petites choses. Donc là, la différence, c'est qu'au lieu de vous annoncer les informations brutes, comme on dit, de fonderie, on va s'étaler un peu plus, prendre un peu plus de temps. Donc là, les infos à noter, la stèle solaire, vous pouvez noter qu'il va falloir se lever de bonne heure jusque pendant tout le mois de mai.
Alors, on peut donner quelques... Avant qu'on entame les Noëls, moi, j'ai un petit mot sur les élections. Je vois frémir.
Vas-y.
Non. Pense au code de déontologie d'Alderne. Rassurez-vous. Alors, vous savez que les sondages prévoient que la majorité, elle passe les 50%. Et ça fait partie des portes ouvertes qu'on enfonce très souvent.
Oui.
Et alors, moi, je peux vous dire qu'on avait lancé une élection il y a quelques années, lors d'une nuit de la pleine lune.
Ah oui, c'était génial.
C'était très drôle. On a demandé aux gens de voter. Est-ce que la lune, oui ou non, tourne sur elle-même?
Alors, il faut préciser un peu le contexte. Alors, en fait, la nuit de la pleine lune, c'était pas spécialement astronomique. C'était une grosse fête.
C'était une fête.
Où il y avait un peu de tout.
Voilà.
C'était le prétexte de faire la fête au niveau de la pleine lune.
C'était d'ailleurs quelqu'un d'Alternante qui avait organisé ça. Ça faisait 2 ou 3 ans, même peut-être plus. Et là, ça se passait à Bouguenay, au Pianoctail. Donc, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des comédiens qui étaient... Alors, nous, on était invités pour présenter des faits scientifiques,
voilà,
sous une manière un peu rigolote, mais scientifique tout de même. Et alors, on avait donc lancé ce référendum, qui était très drôle, parce qu'il y avait des comédiens qui étaient chargés d'induire les gens en erreur, comme les hommes politiques, n'est-ce pas ?
En fait, expliquer que nous, on avait une exposition scientifique, en fait, où les planos,
voilà,
des fois, continuent à se balader dans les écoles, dans les universités, etc. Donc là, on avait des panneaux, notamment, qui
présentent... La Lune.
Sur la Lune.
C'était la Lune, la pleine Lune. Autour de la Lune.
Et la question qui était posée, en fait, c'était est-ce que la Lune tourne sur elle-même ?
Voilà, parce que le problème est simple, on voit toujours la même face. Donc il y en a qui disent, puisqu'on voit la même face, ben, elle ne tourne pas. Il y en a d'autres qui disent, mais si, je vais vous expliquer, elle tourne bien sur elle-même. Alors c'est un fait parfaitement scientifique. Si on est dans l'espace, et on voit effectivement la Lune tourner sur elle-même. Et d'ailleurs, le Soleil le prouve bien, puisque la Lune est tantôt entre nous et le Soleil, et tantôt elle est derrière, tout en nous présentant à nous la même face. Donc forcément, elle ne tourne pas la même face vers le Soleil. Enfin, tout cela, on peut le montrer. Et alors, c'est donc un fait scientifique qui était sur les panneaux, qui était très bien expliqué. Donc là, les gens étaient parfaitement, avaient la possibilité de connaître le résultat. Et malgré cela, alors tenez-vous bien, il y a à peu près 49,89 qui ont voté non, elle ne tourne pas sur elle-même, et 50,02 qu'elle tournait effectivement sur elle-même. Ça veut dire qu'il y a la moitié des gens, en gros, qui ont voté à côté, on va dire, à côté de la plaque, c'est-à-dire qui bien qu'ayant tous les moyens de s'informer, eh bien, se sont trompés.
Alors, en fait, c'était un peu sournois, puisqu'en fait, c'était sournois à ce niveau-là, puisqu'en fait, les panneaux étaient énormément, on l'espère, très bien expliqués. Donc, les gens, quand on commence à leur poser, ils disaient, bah oui, c'est logique, ça tourne sur elle-même. Mais c'est là que les comédiens intervenaient, les comédiens qui faisaient partie notamment des ligues d'improvisation, etc., qui eux étaient là pour convaincre les gens du contraire. Donc, ils avaient un peu...
Qui s'invectivaient, voilà, l'un
l'autre. Mais non, en fait, regardez, c'est pas possible. Voilà. Bah, vous avez bien qu'elle nous montre toujours la même face. Comment vous m'expliquez qu'elle tourne? Bah oui, c'est vrai. Donc, en fait, les gens commençaient à se poser des questions. Ils arrivaient petit à petit à changer la vie d'une
majorité de gens. Ils ont certaines personnes. C'est tout à fait l'image de ce qu'on voit avec des médias, n'est-ce pas, qui tournent l'opinion. Enfin, bon, ça c'est. Alors, il y avait là le maire de Bouguenay, qui est un homme charmant, et à qui j'ai dit, voyez, c'est quand même la démocratie. C'est un exercice difficile. Je me suis pas avancé plus parce que c'est pour montrer quand même que la vérité ne sort pas forcément du chapeau, ni du nombre, ni des minorités non
plus. Surtout au niveau scientifique.
C'est quelque chose qui nécessite énormément d'informations en amont et une information objective. Et alors là, on a un gros problème.
Mais c'est pour ça que nous, on fait de l'information qui n'est pas tout le temps objective. Mais bon.
Non, mais nous, on essaie.
On essaie quand même. Donc c'est vrai que c'est important quand même de préciser ça. Dans les faits scientifiques passés, c'est prouvé notamment que y a tous ceux qui ont inventé de nouvelles théories, notamment, ils sont confrontés à quasiment 100% de leur père. Ils ont eu du mal à faire passer la nouvelle théorie. Certains, c'est logique, puisqu'en fait, elle était fausse, parce que bien sûr, comme le principe, c'est qu'une théorie...
On n'a pas forcément raison parce qu'on est nombreux, et on n'a pas forcément raison parce qu'on est minoritaire. Ça, c'est pareil.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que faut pas non plus se fier à la démocratie directement. Mais bon, c'est quand même mieux que de vivre dans une dictature.
Ah, ça, c'est notre petit...
Clin d'œil.
Petit clin d'œil. Hein. Voilà, ça va plus loin.
Voilà. Donc, on a pas mal de choses à vous parler. Donc là, on va aborder tout de suite...
Vous voulez parler de la stèle ?
Non, on va parler des ciels du mois, là.
Ah oui, tu
on va aborder le ciel du mois.
On va aborder
le ciel du mois. On va vous présenter ce qu'il y a à voir. C'est quand même un phénomène assez intéressant pour ce mois-ci. Et ceux qui ont déjà été au dernier ciel de Nantes en ont déjà bénéficié. Tout de suite, le ciel du mois avec Pierre Simoneau. Alors Pierre, les nouvelles de ce qu'il y a à observer ce mois-ci dans le ciel.
Alors, c'est le mois de mai, puisque c'est le ciel du mois de mai.
Tout à fait.
Donc, joli mois de mai.
Oh.
Porte-t-il bien son nom?
Alors, on va voir.
Oui, je le pense.
Fais ce qu'il te plaît.
Voilà.
Fais ce qu'il te plaît. Oui, je le pense, et vous avez la chance de pouvoir assister à un grand rassemblement exceptionnel des planètes du système solaire.
Et le ciel font des manifs?
Elles aussi vont peut-être faire des manifs.
Oui, il y a...
Elles défilent
pour l'instant. Défilent. On ne sait pas si elles manifestent, elles défilent.
En effet, quand 5 planètes visibles à l'œil nu sont regroupées dans une même région du ciel et que la Lune vient se joindre au spectacle, il ne faut pas manquer une telle occasion de satisfaire votre curiosité.
Là, je vais te couper rapidement. Il faut savoir que notamment notre ami Dominique Ménel, qui parle souvent à la radio, avait commencé à dire que notamment il y avait 6 planètes visibles à l'œil nu. Donc les gens ont commencé à en discuter, et puis les gens n'étaient pas d'accord, puisque les 5 planètes dont on parle là ont été... on vient de l'Antiquité, puisque c'est les seules 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Sauf qu'en fait, pour la boutade de Dominique Ménel, justement, c'est-à-dire que la 6e, quand même, on la voit tous les jours. C'est celle sur laquelle on a les pieds dessus, quand même.
Oui.
Ah oui, bien sûr.
Donc il n'a pas tort. Voilà. Il y a 5 planètes visibles dans le ciel. Voilà, c'était la petite boutade.
Alors vous assisterez ce mois-ci donc à une valse de tableaux célestes très spectaculaire. Dès le début du mois sont en scène donc Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter.
Ça nous en fait 5.
Donc ça fait bien 5 planètes. La 6e étant la Terre.
Terre, oui.
Et nous ne parlons pas de la Lune, puisque la Lune n'est pas une planète.
Tout à fait.
Pour jouer du spectacle, vous n'avez pas besoin de matériel. Vos yeux et un peu de patience suffiront. Il vous faudra attendre environ 22 heures, heure légale, pour les trois coups du début du spectacle. Vous remarquerez en premier, grâce à son éclat, Vénus, l'étoile du berger, d'une magnitude proche de moins 4.
Donc, ça veut dire d'un éclat. Hein, éclat. Oui, plus oui. C'est petit, hein, moins 4, c'est plus fort que moins 3. Et voilà, le soleil, ça doit être moins 22 par là.
C'est ça, voilà. La Lune, c'est moins 14, je crois.
Ouais, et puis les planètes, les étoiles les plus faibles, c'est moins 30.
Magnitude,
c'est
plus près du trou de 30 plutôt. On trouve ça dans cette racine, dans Charlemagne. La place Maubert, ça vient de Maubert Mutualité à Paris. C'est Magnus, Albert le Grand, Magnus. Donc ça vient de là aussi.
D'accord. Alors donc, après Vénus, un peu plus bas et légèrement plus au nord, Mercure. Mercure avec une magnitude voisine de 0.
Donc là, il faut en profiter parce que Mercure, on ne la voit pas souvent.
Voilà. Il faut peut-être préciser que ces deux planètes, Mercure et Vénus, qui sont donc entre nous et le Soleil,
ce sont des planètes telluriques d'abord.
Voilà, elles sont terreuses, enfin rocheuses, et elles suivent le Soleil. Quand il se couche, elles se couchent peu après.
C'est ça.
Elles sont dans l'éclat, on pourrait dire, presque du couchant.
Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, dans le canton, enfin, justement. La position favorable de Mercure par rapport au Soleil, elle est au maximum de son élongation.
Donc l'élongation, en fait.
Alors l'élongation, c'est la position la plus éloignée, c'est l'angle le plus grand formé entre la planète
et le soleil.
Le Soleil par rapport à la Terre.
Il faut dire qu'elle tourne autour du Soleil, donc vue de la Terre, on la voit tantôt, on la voit plus ou moins éloignée du Soleil.
Exactement,
en fait, c'est ça hein, l'idée. Maintenant, elle est au maximum de son éloignement apparent.
Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Alors. Donc au plus loin du Soleil. Donc elle fait donc un éclat fixe et brunâtre qui tranche avec celui des étoiles. Profitez-en rapidement cette semaine. Mercure perd en magnitude et revient vite dans les lueurs du Soleil.
En fait, c'est un gros problème. C'est pour ça que je dis qu'elle est très difficilement observable, puisque en fait, elle est tellement proche du Soleil, vu que c'est la planète la plus proche. En fait, eh bien, elle est tout le temps dans les lueurs du Soleil, et en fait, elle tombe dans la partie où alors au lever, dans l'aube, ou alors au crépuscule. Et en fait, c'est vrai qu'elle est complètement noyée dans les lueurs et on n'arrive pas à la voir. Donc, c'est vrai que c'est pas évident du tout. Donc là, faut en profiter. En plus, si vous avez un instrument, d'en profiter de la regarder.
Oui, enfin, donc on peut la voir effectivement à l'œil nu. Elle est toujours très basse sur l'horizon. Hein. Alors, en remontant vers Jupiter, vous trouverez Saturne, à peine plus gros et brillant que Mercure.
Alors beaucoup plus faible qu'il y a quelques semaines.
En fait. Oui, parce que donc Saturne est très loin de la Terre, donc c'est à peine plus gros que Mercure. Hein, c'est vraiment petite.
En apparence. Hein. Mercure, en apparence. Parce que Mercure est à peu près la taille de la Lune, à peine plus. Mmh. Et par contre, se trouve à plus de 200 millions de kilomètres. Donc on est peut-être pas en ce moment, mais par contre Saturne 5 milliards 500 millions. Et elle fait 120 000 km de diamètre.
Donc, c'est toujours en apparence.
C'est tout à fait en apparence. Mais les amateurs parlent beaucoup de diamètre apparent. Mm-hmm. Et puis, ils font plus attention. Ils disent, par exemple, Saturne est presque à peine plus grosse que Mercure.
Voilà.
Alors, il y a des gens qui retiennent ça au premier degré.
Alors, donc, on vient de parler de Vénus, on vient de parler de Mercure, on vient de parler de Saturne. Donc, en repérant ces trois planètes, vous découvrirez Mars. En attendant que les lueurs du crépuscule s'estompent.
Hein. Oui, parce qu'elle est assez faible, en fait.
Parce qu'elle est très faible, justement. Son éclat a fortement baissé depuis son opposition, il y a presque un an. Sa magnitude n'est plus que de 1,5. Attention, ne la confondez pas avec Aldébaran, donc l'étoile du taureau, beaucoup plus basse sur l'horizon et du même éclat orangé.
Alors pour les planètes, il y a un truc qui est assez simple, surtout là qu'il y en a plusieurs qui sont alignées. En fait, elles tournent tous à peu près dans le même plan autour du Soleil. Donc on les voit dans le ciel sur une ligne, qui est le prolongement du plan de l'écliptique.
C'est ça.
Hein, donc il n'y a pas trop de problèmes pour repérer Saturne. Il suffit de suivre la ligne qui va de Vénus à Jupiter, par exemple, et elle sera à peu près sur cette ligne.
Voilà. Et par contre, Mars est un petit peu écarté de l'écliptique, mais enfin, je veux dire, ça forme actuellement, ce soir, si vous regardez, ça forme un triangle Mars, Saturne et Vénus, ça forme un triangle pas tout à fait équilatéral, mais pas très très loin. Donc, dans leur ronde infernale, la planète Saturne ne sera dépassée par Mars, et sera doublée par Vénus un peu de temps après. Donc ça va nous ramener au tableau céleste dont je parlais au début. Le grand rendez-vous planétaire du mois de mai ne sera complet sans la présence de la Lune. Du 13 au 16, elle arrive avec son fin croissant. Elle n'est âgée que d'un jour, quand le 13 au soir, elle croise Mercure.
Sans la toucher.
Le 14, c'est la rencontre avec Mars et Vénus, vers 22h30, heure légale. Le 15, la Lune se sera glissée entre Vénus et Jupiter. Et tous les figurants seront alignés comme à la parade le long de l'écliptique. Le fameux plan dont on parlait tout de suite.
Tout à fait.
Il ne manquera effectivement que Mercure, puisque Mercure sera couché.
Bon, c'est vrai qu'il faut Mercure cette semaine, et puis après, ça va devenir de plus en plus dur, et après, vous ne la verrez plus.
Alors, et vous pourrez admirer donc du haut vers le bas, Jupiter, la Lune, Vénus, Mars et Saturne. La lumière cendrée de la Lune ajoutera encore à la beauté au spectacle, et une bien jolie manière de clore ce défilé planétaire.
Ah, c'est bien. Oh. Nous clos. Donc, je ne sais pas si on dit nous closons, mais ouais. Ici, on clos. Ouais. On ne clôture pas, ouais. N'est-ce pas ? Comme la bourse. Hein, la bourse a été clôturée.
Bah oui, s'il met des piquets
pour les empêcher de partir. Des piquets et des barbelés.
Ouais, pour les empêcher de partir.
Voilà.
Alors, il reste trois planètes. Uranus se lève dans le Verseau. Pour essayer de voir, attendre le 20 mai vers 2h du matin, temps universel.
Elle est surtout invisible à l'œil nu.
Oui. Quant à Neptune, la planète bleue ne sera pas vraiment visible, pas avant le 25 du mois, et vous pourrez espérer la repérer dans le Capricorne.
Le Capricorne.
Vers 3h15, temps universel. Pour Pluton, ce mois-ci, il n'y aura rien. Il faudra attendre le 7 juin. Elle sera dans une position idéale pour ceux qui disposent d'un instrument d'au moins 250 mm.
Et puis il faut la repérer.
Faut savoir où aller, en fait.
C'est même beaucoup plus petit qu'une étoile.
Faut au moins 250.
Oui, au moins.
Alors, autre information. Le 24 mai, jeu d'ombre et de lumière sur Jupiter, vers 20h30, temps universel. Alors, temps universel, c'est 2h de moins que l'heure légale, en ce moment.
Et parce qu'on a l'heure de Varsovie, là, en ce moment.
Voilà. En effet, les ombres portées d'Europe et Ganymède flotteront sur le disque jovien, tandis que Io approchera la planète géante pour disparaître derrière.
Toujours agréable, ça.
Ouais. Spectacle qui risque d'être difficile à suivre, la planète est en bas sur l'horizon.
En fait, pourquoi on vous explique que c'est difficile ? Bon, outre le fait qu'il faut avoir un horizon dégagé, le problème aussi, c'est qu'il faut avoir, si vous avez un peu de brume, vous savez tous qu'il y a un peu de la brume, donc le ciel est un peu moins pur en se rapprochant de l'horizon que plus on monte vers le zénith. Ouais. Donc c'est vrai que ça augmente un peu la difficulté de l'observation.
Alors, autre point intéressant ce mois-ci, le mois de mai est favorable à l'observation d'un des trois plus beaux amas globulaires du ciel boréal, M3. Profitez donc de ces conditions optimales. Pour le repérer, il faut le chercher à mi-chemin entre Arcturus du Bouvier et Cor Coralis des chiens de chasse.
Il y a des noms très nobles, hein. Arcturus du Bouvier, ça en jette.
Alors, dernier point, c'est la comète Ikea-Zhang. Elle s'éloigne à grands pas.
Atchoum, à vos souhaits.
Découverte par un chinois et un japonais, donc c'est pour ça que
sa magnitude attendue est de 6, comparée à moins 4 de Vénus, vous vous apercevrez d'une différence. Elle est à peine visible à l'œil nu. Hein. Et sa trajectoire passe de la tête du dragon vers le nord, vers la pointe nord d'Hercule, puis direction la couronne, le 25 mai.
La couronne boréale.
Boréale.
Attention.
Oui, parce que elle couronne australe, il faut prendre un point de kilomètre.
40 millions de kilomètres dans le mois.
Ah, quand même, c'est pas mal. Hein. Voilà. 40 millions de kilomètres.
Dis donc, elle ne perd pas son temps.
Il faut savoir qu'en fait, on l'a envoyé mieux le mois dernier, hein, puisqu'en fait, on le savait qu'elle est arrivée au son maximum au mois d'avril.
Oui.
Et c'est vrai que là, maintenant, on commence à perdre un peu de son intérêt.
Voilà.
Et presque à la vitesse d'une fausse nouvelle, dis donc.
40 millions de kilomètres. Tu crois que ça va à cette vitesse-là, les fausses nouvelles ? Merci beaucoup, Pierre. En direct sur Alternante avec Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes.
Mais c'est pas si triste que ça.
Non, je dis pas d'une voix triste.
Voilà, c'est même une émission très gay.
Ouais,
sans jeu de mots.
Oui, sans jeu de mots. Oui. Donc, tout de suite, nous allons continuer notre émission. Donc là, on vous a présenté un peu le ciel du mois par Pierre Simoneau, qui vous a parlé notamment du balai des planètes.
Ouais, ce qu'on appelle planètes. Une conjonction, en fait. Une réunion de planètes, une manif de planètes.
Voilà. Un regroupement, un beau regroupement.
Voilà.
Donc, tout à l'heure, on vous a parlé un petit peu de la stèle. Donc, on va vous en parler un peu plus en détail. D'une stèle qui a été construite par un sculpteur, qui a été mise en place au parc du Grand Blottereau. Donc, on vous parle de la stèle solaire. Alors, Daniel, quelques détails déjà sur la mise en place de la stèle. Et puis, alors, après, on va expliquer un peu voilà, pourquoi on en parle à Pulsanne.
En quelques mots, l'histoire de cette stèle, puisque elle est maintenant érigée au parc du Grand Blottereau depuis septembre 2001, donc ça fait quelques mois, et vers le mois de juin-juillet 2001, la ville de Nantes est venue vers la Société d'Astronomie avec cette question qui en apparence est toute simple, voilà, nous avons eu l'idée, mais bon, on s'excuse de venir comme ça si tard, mais en fait ça nous a pris maintenant, on va ériger donc on appelle ça, nous, une stèle, mais en fait, c'est une sculpture monumentale qui est un peu particulière puisque le sculpteur Jean-Claude Lambert a beaucoup travaillé en Corée, au Japon, et il a l'habitude de ses œuvres, d'une part monumentales, c'est-à-dire de quelques mètres de haut. Et il faisait du bois avant, et il cherche toujours des matériaux en rapport avec la nature et assez pérennes. Et là, maintenant, il est sur la pierre, et c'est tout à fait indiqué, et surtout cette grande pierre brute qui ressemble à une espèce de grand menhir. Ça va très bien avec ce parc du Grand Blottereau, qui est quand même assez naturel, assez ouvert. Et alors, évidemment, au centre de cette pierre, il y a la seule partie travaillée, c'est une espèce de rosace. Je dis bien espèce, parce que c'est là une partie qui est un peu évidée, et avec un cercle de trous. Hein. Je ne sais pas si je la décris bien, mais c'est l'essentiel. Et si vous voulez en savoir plus, vous allez l'admirer au parc du Grand Blottereau. Personne ne la prend, hein. Personne ne va la voler.
Si vous voulez la voler, il faut avoir un bon sac à main.
Elle fait 7 tonnes d'œufs. Donc elle est plantée vers l'entrée qui se trouve au milieu de l'avenue Auguste Peynaud, donc cette grande avenue qui longe le parc du Grand Blottereau lorsqu'on va de Doulon, la mairie de Doulon, au vieux Doulon. Donc ceci étant, donc cette stèle a été demandée à ce sculpteur par la ville de Nantes et en même temps, on nous a dit, bah, tiens, qu'est-ce qui pourrait y avoir d'intéressant à observer en rapport avec les astres? Alors on se creuse la tête parce que tout était imposé, l'emplacement de la stèle, l'orientation qui était à quelques degrés près, on pouvait rien changer. Donc la rosace fait face d'un côté au nord-est, donc très exactement à 20 degrés, on va dire, en partant de l'est vers le nord, c'est à 20 degrés, ou si vous préférez, à 70 degrés en partant du nord vers l'est, enfin, c'est pareil. Et donc, on a eu l'idée, on s'est dit, mais tiens, si elle est orientée vers l'est, le nord-est, ça peut être sympathique si le soleil passait derrière, dans l'axe de cette rosace, et éclairait les petits trous, auquel cas cette rosace s'embraserait par les flammes du soleil, donc ça c'est très poétique. Et c'est exactement le calcul qui a été exécuté par Louis Campion, qui est notre grand calculateur de la Société d'Astronomie, qui s'est donc plu à creuser cette question et qui a effectivement trouvé que cela se produirait aux alentours de début mai, on va dire, et début août. Alors début août, la stèle n'était pas encore en place, donc moi je suis allé, puis j'ai pris quelques repères.
Vous rappelez pourquoi il avait décidé de la mettre, il y avait une date butoir, c'est le mois de septembre.
C'était la fête des plantes dans le parc, et la ville avait souhaité faire un événement autour de la pose, parce que la stèle allait être posée, et le sculpteur allait la sculpter sur place. Donc il y avait un côté un peu attraction. Et donc nous, pendant ce temps-là, on a fait des calculs avec Monsieur Campion, très très précis. Par contre, donc au mois d'août, je les avais vérifiés, la justesse de ces calculs. Et par contre, après, la stèle était en place. Et c'est donc...
Il faut savoir, en plus, ça se fait par étapes, parce qu'ils ont installé la partie, la roche, en fait. Je ne sais pas quel type de pierre que c'est exactement.
C'est un granit, qui vient du Morbihan, je crois, en tout cas de Bretagne.
De Bretagne, donc le granit qu'ils ont
installé.
Qui n'a pas
quitté la Bretagne, puisqu'il est à Nantes.
Voilà. Bon, historiquement, elle n'a pas dit qu'elle quittait la Bretagne. Donc, il est posé, et ils l'ont installé, puis après, le sculpteur a fait son œuvre.
À parachever, on va dire, puisque bon,
il a évidé.
Il n'a fait que choisir la pierre dans une carrière, puisqu'elle n'a pas été taillée.
Tout à fait.
Par contre, la rosace, qui est parfaitement circulaire, a été sculptée sur place. Alors, donc, c'était un peu l'épreuve, le test, hein, c'était de venir donc début mai. Alors, M. Campion a refait ses calculs, et au lieu d'une période, un petit créneau de quelques jours, il a trouvé que finalement, le créneau intéressant s'étendait dans les 20 premiers jours du mois de mai. Donc, ça laisse le temps aux gens de venir. Alors, on va leur dire l'heure. Il faut venir aux alentours de 7h du matin. Il faut venir un petit peu avant 7h du matin. Ouais. Et le phénomène se produit entre 7h et 7h10. À peu près. Et il faut se tenir dans l'axe de cette stèle. Donc, il faut se mettre
dans l'allée qui
dans l'allée, si,
ou qui donne vers la stèle.
Voilà. Fait. Ou sur le trottoir qui est derrière les grilles. Mais si on veut, on sait, il y a un petit passage où on peut pénétrer dans le parc. C'est un parc qui est très, très convivial. Il y a pas de, c'est ouvert, on va dire. Hein. Donc, on va se mettre dans l'axe de cette allée, vous trouverez facilement. Vous attendez 7 heures et quelques minutes, et puis vous mettez dans l'axe, et puis vous scrutez, vous allez voir le soleil, disons, suinter à travers les trous de cette... Alors c'est un spectacle très étonnant, magnifique, et M. Campion, je crois qu'il a une phrase dans votre...
Tout à fait.
Il dit quelque chose.
Alors en fait, autrement, il faut quand même préciser qu'on a décidé... De promouvoir cette partie, puisque en fait je pense qu'à terme il va y avoir une plaque qui va expliquer le nom du sculpteur, etc., et notamment les calculs et à quel endroit il faudra se positionner par rapport aux horaires d'observation du phénomène.
On va essayer de mettre un emplacement, mais voilà. Comme on a vu qu'on pouvait se décaler un peu, au contraire on pourrait jouer avec la distance à la stèle, et on s'accroupissait plus ou moins, voilà. On se décalait un peu, et
mais les calculs étaient quand même bons par rapport à l'endroit où on avait prévu.
Les calculs étaient totalement
exacts, et ça on a été se lever de bonne heure dimanche matin.
Voilà, on était dimanche matin.
Voilà, et on était à 6h30 là-bas.
Oh, mais je ne vous dis pas. Et puis on était à 6h à la Société d'Astronomie pour préparer nos badges.
Voilà, donc c'est vrai que c'était un peu de bonheur pour nous. Je ne sais pas s'ils ont été observés samedi soir, mais c'est vrai que on n'est pas habitué à se lever des heures pareilles.
C'est plus facile de ne pas se coucher et d'aller observer. C'est une pierre dans le jardin de nos chers astronomes amateurs, avec tout le respect que je leur dois, que de se lever aux aurores. Hein, c'est vrai,
c'est pas vrai.
Bon.
Surtout qu'on était.
Pierre ne me contredit pas, c'est que j'ai raison.
Personne n'était bien. On avait vérifié les calculs, mais c'était au mois d'août, parce qu'il faut préciser en fait que le phénomène se produit au mois de mai.
Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça mérite d'être répété. Voilà.
Donc, en fait, nous, on avait vérifié au mois d'août, c'était la seule possibilité qu'on avait. Mais ils ont érigé la pierre en septembre. Et puis maintenant, on restait à savoir si le soleil allait bien se conforter à nos calculs.
Alors, ce qui est assez remarquable, donc, bon, bien sûr, nous sommes très fiers que nos prévisions, contrairement aux sondeurs, soient avérées exactes. Il faut savoir que la science, c'est quand même une science tellement exacte que M. Campion rappelait aux gens, en les faisant un peu mourir de rire, que on avait effectivement ces calculs. Moi, j'avais été sur place et puis j'avais dit, il a fait une petite erreur dans ses calculs, puisque finalement, Monsieur Campion, vous êtes trompé de quelques degrés. Alors, il m'a dit, non, c'est votre boussole qui doit être fausse.
Tout à fait. Parce qu'en fait, une des difficultés pour les calculs, c'est qu'il faut que ce soit précis. Et on n'avait pas l'orientation exacte de la stèle.
On l'avait, mais on l'avait à je vous dis, 2-3 degrés près.
Mais quand je dis exact, c'est vraiment exact par rapport à ce qu'on peut avoir autrement. Donc, on avait dû le faire avec une boussole, c'était pas une précision.
Oui, la ville de Nantes avait donc un service des espaces verts très performant. Des ouvriers connaissaient bien leur boulot. Moi, j'étais sur place d'ailleurs pour affiner l'orientation, mais on avait la petite incertitude. La pierre en elle-même, elle allait être plus ou moins
creusée comme il fallait, etc.
Voilà, plus ou moins tournée. C'était pas un degré près, on va dire.
Donc, on était dimanche matin, on a eu un peu peur, puisqu'en fait, là, c'était pas le soleil qui nous faisait peur, c'est les brumes matinales. On avait des brumes matinales sur. C'est-à-dire qu'à partir de 6h30, le soleil il se levait, mais on le voyait pas. Donc on se dit, si les brumes continuent à monter avec le soleil, on verra rien du tout. On était un peu déçus. Et puis on était agréablement surpris aussi, puisqu'on avait fait un communiqué de presse, et puis il y avait une trentaine de personnes du public.
Plus que ça.
Peut-être plus, oui, c'est vrai que...
Presque une cinquantaine, on va dire, au vu de nez, comme ça. On a pris une photo. Hein.
Selon les organisateurs, 50, et selon la police, 30.
Ouais, elle n'était pas là, la police.
Oui. C'est comme ça pendant les manifestations.
Toujours comme ça. Oui.
Voilà, donc,
en général, on multiplie par 2 ou 3 les organisateurs. Il y en a pour certains, on multiplie par 10.
Voilà.
C'est un peu là.
Ça dépend.
N'est-ce pas?
Donc là, en fait, on a eu la chance quand même que le soleil se soit continué à se lever. Par contre, les brumes, elles sont restées à l'endroit où elles ont été. Et on a eu le bonheur d'avoir le spectacle, de voir le soleil passer à travers les trous. Et le phénomène, en fait, s'est déroulé pendant une dizaine de minutes en illuminant ces parties-là. Et c'est vrai que on a eu des cris de joie quand même. C'est vrai que les gens étaient on était content de voir le phénomène. On avait, en plus, les gens étaient en train de se bousculer, puisqu'en fait, bah, bien sûr, les rayons, ils passaient par un certain endroit. Et en fait, bah, il fallait être dans l'axe.
Il fallait jouer, il fallait se mettre dans l'axe.
Et c'est vrai que, bah, les gens donnaient un peu des coups de coude pour pouvoir redonner mettre l'œil, comme pas l'oculaire, mais l'œil dans la direction. Et donc, c'est vrai que c'était assez, assez intéressant.
Alors, pour clore, une fois de l'un, voilà. Clore, moi je clore, ce petit récit, il y a une dame qui est arrivée donc bien après la bataille, comme on dit les carabiniers d'opérette, n'est-ce pas ? Et puis elle était catastrophalisée. Écoutez, je suis vraiment furieuse parce que je me suis levée très tôt. Et puis j'ai dit à mon mari, dépêche-toi, et c'est lui qui m'a retardé. Il a mis un temps fou à s'habiller. Alors vous voyez que, hein, c'est toujours les femmes qui, comme disait Groucho Marx, j'ai écrit ce livre pendant les longues heures où ma femme se préparait pour sortir. Si elle avait été adepte du naturisme, ce livre n'existerait pas. Enfin, maintenant, on peut inverser, n'est-ce pas ? Honneur aux dames. J'ai consolé cette dame, donc ce qu'on va dire aux Nantais, nous on était là dimanche pour marquer le coup, mais vous avez jusqu'à peu près le 20 du mois, mais n'attendez peut-être pas le 20 du mois, parce que moi je peux pas, on peut pas vous garantir ça aussi précisément. Essayez de venir dans les jours qui viennent, donc c'est à peu près en face d'un restaurant qui s'appelle la Roseraie, c'est pas pour lui faire la publicité, mais c'est un bon repère, boulevard Auguste Pénaud, donc en face vous avez cette allée, vous verrez la stèle, et si vous connaissez le Grand Boulotrou, vous saurez comment y entrer et comment se positionner.
Donc c'est vrai que là il faut venir à partir de 7h, faut être là pour 7h.
Il faut être prêt pour 7h, sinon c'est dommage quoi, de se lever très tôt et d'en louper une partie.
Voilà, donc c'est vrai que là il faut être là pour 7h, donc en fait
ça dure que quelques minutes.
Faut expliquer pourquoi en fait ça dure que quelques mois, voire quelques semaines plutôt.
Et pourquoi ça ne dure que ça se présente qu'à deux moments de l'année.
Voilà, donc en fait ce qui se passe c'est que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Uniquement aux équinoxes.
Voilà, aux équinoxes.
On dit quand même qu'il se lève à l'est, parce qu'il se lève vers l'est.
Vers l'est.
Et il se couche vers l'ouest tout le temps. Donc là, il se lève au nord-est.
Oui, parce qu'on est en été. Il faut savoir
qu'il se lève de plus en plus au nord-est.
Vers le nord.
Et au niveau de la stèle, le nord-est est vers la gauche. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, il se lève de plus en plus à gauche de la stèle. Et au bout d'un moment, il va se lever tellement à gauche qu'il va se lever. Et en fait, le soleil va passer au-dessus de la stèle.
Il passera au-dessus, au moment où il sera derrière.
Et donc, en fait, au moment où il sera derrière, il passera au-dessus. Donc, en fait, on ne pourra pas voir.
Donc, il y a juste un moment où c'est au moment où il va commencer à aller vers le nord en se levant. Et où il sera, passe pas trop haut, il passera dans l'axe de la rosace au moment où il sera derrière la stèle.
Et après, au mois d'août, le phénomène va s'inverser. C'est-à-dire qu'il va se rapprocher de l'est pour arriver à l'équinoxe. Et à ce moment-là, le soleil va commencer à se rapprocher de l'endroit, au moment où il sera levé, il va passer juste derrière la stèle et surtout derrière la rosace. Il va monter, il va baisser. Donc, Monsieur Louis Campion qui effectue les calculs à la suite astronominante qu'on a réfectué derrière
pour être plusieurs.
Il s'est fait applaudir, c'est vrai. Donc on a un petit message de lui qui était heureux, parce que c'est vrai qu'apparemment, d'après ce que nous a dit sa femme, les deux dernières nuits, il était inquiet. Il était inquiet, parce qu'il y a quand même une partie importante, c'est qu'en fonction le soleil quand il se lève, on n'est pas sûr exactement, puisque en fait, il y a la réfraction astronomique.
Qui est due à l'humidité de l'air et la réfraction atmosphérique qui peut jouer sur quelques degrés. Donc nous, le passer au-dessus ou en dessous de la rosace.
Parce qu'en fait, c'est vrai que les rayons du soleil sont courbés par l'atmosphère et en fait, en fonction de la composition de l'atmosphère, si elle est humide ou plus ou moins, les rayons vont plus ou moins monter. Donc c'est vrai qu'il y avait cette incertitude-là.
Et surtout que je lui ai dit que s'il s'était trompé, on dirait que c'est lui qui a fait les calculs.
Voilà.
Maintenant, on peut dire que c'est lui qui les a faits puisqu'il
s'est pas trompé. Je vais vous lire un petit message qu'il nous a envoyé quand même, puisque apparemment, il était aux anges. Personnellement, j'étais loin de penser à la splendeur que revêtirait le spectacle. Il n'était que d'entendre les cris d'admiration des personnes présentes pour voir que nous avions atteint notre but. Ce spectacle, qui est de loin de valoir une éclipse de soleil, se reproduira quand même deux fois par an et pendant plusieurs jours pour tous les Nantais qui se lèveront tôt ces jours-là. Donc, on vous rappelle, mois de mai, mois d'août.
Voilà, donc vous saurez d'ailleurs, je pense que sur notre site internet, on va leur préciser.
On va faire une page.
Ces créneaux de dates qui sont, on peut les rappeler grossièrement, c'est début mai, donc la première quinzaine de mai, la première quinzaine d'août, là, on ne va pas beaucoup se tromper.
Voilà. Comme disait ce matin Daniel Worling, puisqu'il parlait de toi par rapport au phénomène le dimanche matin, ce sont les impératifs du hasard qui nous ont guidés. Car rien ne dit que si nous avions pensé, imaginé quelque chose depuis le début, nous serions arrivés à un tel résultat. C'est vrai qu'on a là.
C'est exact.
C'est tout à fait vrai.
On nous aurait demandé, tiens, concevez donc quelque chose d'astronomique dans ce parc. C'est pas sûr qu'on aurait pensé à quelque chose comme ça. Donc finalement, la contrainte, comme disait quelqu'un, c'est l'aiguillon du poète. Et c'est quelquefois ce qui fait avancer les sciences.
J'ai encore ce soir plein les yeux de cette couronne resplendissante de lumière qui se présentait à nous ce matin. Nous avons dompté le soleil et n'avons rien à envier aux anciens Égyptiens, constructeurs de temples et autres monuments. Voilà. De plus, ça me conforte aussi dans l'idée qu'avec le calcul, on arrive à tout. Le verrier avait demandé à Gall, à Berlin, de pointer sa lunette vers Neptune pour qu'il savait être à un emplacement précis du ciel déterminé par le calcul. Ne vous ai-je demandé pas, depuis 10 mois, de venir tel jour, à telle heure, admirer le soleil à travers la rosace qui se trouvait de par voilà. une autre volonté que la mienne à un emplacement précis de la ville de Nantes.
Et il conclut en disant quand même, je me prends pas pour le verrier.
Voilà, je n'ai pas la prétention de me comparer à le verrier, mais nos problèmes étaient similaires. Nous avons été servis par une météo favorable, c'est vrai qu'on a eu un peu de chance, et le soleil est au rendez-vous. Je crois que ceux qui ont vu le spectacle n'oublieront pas, ils vont en parler autour d'eux. C'est vrai qu'il était ravi, lui, et puis nous aussi, parce que c'est vrai que c'était assez émouvant quand même de se dire, on regardait là nos montres et on précisait, dans 10 secondes, normalement, ça devrait commencer. Et comme lors d'une éclipse, eh bien, ça a commencé à l'heure où on avait prévu.
Oui, ça, c'était... J'étais un peu trop fatigué pour avoir des angoisses, mais rétrospectivement, j'avoue que c'est quand même un grand moment, puis ça prouve aussi qu'on est des gens sérieux. Sérieux, et on a quand même rigolé, j'ai quand même raconté une blague à 7h du matin.
Qu'est-ce que tu as raconté comme blague ?
Je m'en souviens plus, j'ai un truc bon. Idiot.
Oui, on va pas épiloguer. Hein. Non. Donc là, c'était quand même une chose importante, puisqu'on avait parlé la dernière émission, de vous inviter à venir. Donc apparemment, les gens nous ont suivis. Donc n'hésitez pas à continuer à y retourner. Donc vous avez jusqu'à encore une dizaine de jours à peu près.
Ah oui, j'ai raconté la blague de l'astrologue d'un certain roi qui était connu pour tuer ses astrologues là, les uns après les autres. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais à chaque fois qu'il se trompait dans une prédiction, clac, on zigouillait l'astrologue. Et c'est un poste très envié, parce qu'il était très bien payé, et à la fois pas très envié, parce qu'on pouvait finir tragiquement. Donc, il y avait un candidat, puis il se présente au poste, et il est choisi, et donc le roi, quelques temps après, lui demande de lui faire une prédiction. Alors lui, qui était malin, il dit « je vais quand même pas me faire avoir ». Alors le roi lui demande, dites astrologue, dis-moi quand est-ce que je vais mourir. Et l'astrologue lui répond, sire, vous mourrez exactement un jour après moi. Ce qui fait que plus jamais le roi a tué son astrologue. Voilà, c'était comme quoi être scientifique et malin, c'est ça que j'ai raconté.
Voilà, c'est tout à fait. Il faut être scientifique et malin, comme on dit. Les astronomes ont les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.
Voilà.
Donc c'était l'information comme importante sur notre stèle. Donc c'est vrai que c'était toujours agréable comme phénomène de pouvoir faire des calculs à partir d'un point précis. Et c'est vrai qu'à la Société Imprimante, on fait notamment d'autres calculs pour essayer de savoir à quel moment va passer une étoile, pour savoir quand est-ce qu'on peut l'observer. C'est quand même l'autre phénomène.
Mais par contre, pour passer l'émission, on ne fait pas de calcul, c'est toujours à la même heure.
Voilà.
Tous les mois. Voilà.
Tous les lundis, tous les mois. On va changer de sujet ?
Oui, alors on va parler un tout petit peu de ces ciels de Nantes.
Quand même. Les ciels de Nantes, donc la dernière édition qui a encore été une réussite, s'est déroulée le 20 avril.
Voilà, un samedi soir,
donc on vous rappelle le principe, c'est d'ouvrir le ciel, entre guillemets, aux astronomes.
Voilà, aux Nantais.
Astronomes nantais, c'est-à-dire
au public
nantais surtout. C'est-à-dire qu'en fait, les adhérents de la Société de l'Astronomie de Nantes... sortent les instruments de l'association pour en fait vous en faire profiter. Et c'est vrai que on est toujours à notre fameux parc, on fait ça au parc du Grand Boutreau. Voilà. Le même parc dont vous parlez tout à l'heure.
Et pourquoi c'est... Parce que c'est un endroit de Nantes. L'idée c'était de choisir un endroit qui soit quand même à Nantes, qui soit connu des Nantais, qui soit facile d'accès. On peut venir en voiture, on peut venir en famille, on peut venir avec sa grand-mère. Et on avait une grand-mère qui avait 100 ans, fêté ses 100 ans. Au ciel de Nantes, pratiquement, mais c'était quelques jours avant. Et en même temps qu'il soit sécurisé, enfin, il fallait remplir tellement de conditions. Et puis, le problème d'éclairage.
Tout à fait.
Et le problème de la pollution nocturne du ciel par les lumières de la ville. Là, on a la chance, on a des arbres qui ne sont pas trop, qui ne nous prennent pas une trop grande partie du ciel, etc. Donc, tout cela réuni a présidé à ce choix du Grand Blottereau. Il faut rappeler que les ciels de Nantes, ça a été inauguré cette année. On a cherché un nom générique pour une manifestation grand public qui soit pas la grosse fête des étoiles une fois dans l'année, mais qui au contraire puisse s'étaler sur toute l'année pour accueillir tout le monde, présenter différents aspects du ciel nocturne, du ciel nantais, pour montrer aussi qu'on peut faire l'astronomie en ville. Bien sûr, on ne va pas faire une grande astronomie de ciel profond avec des mesures de galaxies, de ça. Mais on va faire des choses très sympathiques, la Lune, les planètes, tout ce qu'a raconté Pierre tout à l'heure. Hein. On va pouvoir... Et alors, il y a des gens qui ont, pour la première fois, regardé dans un télescope. Alors, ils ont eu un choc, comme moi j'ai pu l'éprouver. Hein. C'est tout le monde, ça vous prend, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ne serait-ce que les anneaux de Saturne. On a eu la visite de Oh, je m'en vouloir à mort, j'ai oublié son prénom, qui était vraiment charmant, qui était une journaliste de Ouest de France, qui était extraordinairement étonnée, et qui m'a dit, ben voilà, il faut tout me raconter, parce que moi, c'est la première fois que je regarde le ciel, donc je lui ai expliqué, alors on a fait un grand tour, on a regardé à différents télescopes, et elle était totalement subjuguée, elle a trouvé ça formidable. Vraiment, elle a dit, mais je me suis pas ennuyé une minute, c'était un très beau, une très belle soirée. Voilà ce qu'on peut dire aux gens. Venez au ciel de Nantes, hein, mon cher Thierry.
C'est vrai que c'est l'intérêt, c'est en fait c'est ouvert à tous. On est là pour vous expliquer en fait les phénomènes. On n'est pas là non simplement pour vous pointer un télescope vers une planète ou vers une galaxie pour vous dire regardez dedans. On est là pour répondre à vos questions, pour vous expliquer un peu les phénomènes. Donc on essaye de vous rendre tout ça attractif, même si déjà le spectacle en lui-même l'est. Donc c'est vrai qu'on a des instruments aussi divers que jumelles, lunettes et télescopes. Et puis bien sûr, on a une partie où une personne vous fait découvrir le ciel, essaie de vous faire apprendre quelques constellations pour pouvoir vous repérer plus facilement. Notamment quand vous écoutez les ciels de Nantes, on vous dit que telle comète ou telle planète est dans telle constellation. L'idéal, c'est quand même de les montrer pour essayer de les retenir à peu près les formes caractéristiques de chaque constellation. Donc là, pour les prochains ciels de Nantes, c'est le 20 juillet, un samedi soir.
Oui, vous allez dire pourquoi c'est pas la semaine prochaine, etc. C'est tout simple, on n'a pas voulu que ça dépasse 4 ou 5 soirées par an, pour des raisons, d'une part, que ça présente différents aspects du ciel, différents ciels, pour pas trop fatiguer le public, pour pas trop nous fatiguer nous, parce qu'on fait pas que ça.
Tout à fait.
Hein, c'est bénévole, c'est des adhérents d'une association, donc ils se mobilisent tout un samedi soir, on est sur le terrain avec nos instruments, donc c'est une petite organisation. On peut pas faire ça toutes les semaines, parce qu'on y passerait toute notre vie. Donc,
tout à fait.
On vous invite le 20 juillet, c'est un samedi soir.
Alors par contre, une petite nouveauté pour celle du 20 juillet quand même, puisque d'habitude, les ciels de Nantes commencent à 21h. Donc il faut savoir que là, ceux du 20 avril, ils ont commencé comme d'habitude à 21h. Sauf qu'en fait, bah, là, le ciel commence le soleil se couche de plus en plus tard.
C'est-à-dire que le ciel
est de moins en moins noir. Donc, en fait, on a profité d'une ou deux heures où on a eu un peu moins de luminosité, plutôt de nuit, pour commencer par les phénomènes très visibles, comme la Lune et puis quelques planètes. Donc, là, on va profiter justement que le ciel va encore se coucher plus tard pour vous montrer le soleil. Et là, on va commencer les ciels de Nantes à partir de 19h. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va sortir toujours les télescopes, les instruments. Par contre, on va observer le soleil jusqu'à temps qu'il se couche, pour attaquer le ciel nocturne. Donc le soleil, avec notamment un filtrage alpha qui permet de voir les protubérances.
C'est un filtre qui laisse passer une longueur d'onde très particulière. Voilà. C'est une longueur d'onde qui est caractéristique de l'atome d'hydrogène, c'est pour ça que ça s'appelle la raie.
H, alpha.
H. Alors c'est une raie parce que c'est juste une toute petite fenêtre dans le spectre, dans l'arc-en-ciel, quand on décompose la lumière. Et H, alpha, parce que c'est la raie alpha. Des précisions de physique, quoi.
Le soleil est composé de plusieurs gaz, et en fait, avec ce filtre-là, vous ne voyez plus que la raie alpha de l'hydrogène. C'est-à-dire que vous voyez qu'une partie du rayonnement de l'hydrogène.
Alors ça, l'avantage, on peut aussi regarder le soleil dans différentes autres raies, et ça va nous caractériser différentes couches du soleil. Donc la raie H-alpha est intéressante parce qu'elle montre la partie superficielle, là où il y a justement cet magnifique embrasement, parce que le soleil c'est une étoile, mais qui est une étoile qui est en bouillonnement permanent. Hein, ça se voit pas comme ça, mais si vous regardez bien sûr de près avec les télescopes, vous verrez, il y a des espèces de flammes qui sont en fait du gaz qui est éjecté puis qui est ionisé comme un tube à néon en fait, parce qu'il n'y a pas de flamme bien sûr, il n'y a pas de feu sur le soleil. Donc c'est ça qui est intéressant, alors on le voit vivre, parce qu'on voit ces flammèches,
les protubérances un peu,
ce qu'on appelle les protubérances, voilà. Et alors ça a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de kilomètres.
Ah, on met la Terre dans la protubérance, hein. C'est assez phénoménal. Donc là, en fait, notamment avec ça, plus des filtres pleine ouverture pour voir un peu les tâches, voir un peu comment ça se produit. Donc c'est vrai que là, vous allez avoir la chance au ciel de Nantes là, donc les autres, faut pas les louper, mais ceux-là, faut encore moins les louper que les autres, donc à partir de 19h, et puis jusqu'à temps que les gens soient fatigués. Puisqu'en fait, on finit des fois à cette
heure. Oui, on vient, on s'en va quand on veut.
tout à fait.
Il y a vraiment, c'est ça le côté agréable aussi.
Tu combien là cette fois-ci?
Quand tu poses rapproche-toi du micro,
Pierre. Oui, Pierre, on était combien cette fois-ci?
Une cinquantaine.
Une centaine.
Sur les ciels de Nantes.
On a à peu près toujours plus ou moins une vingtaine de personnes après ce nombre-là. Oui. Donc c'est vrai que c'est bien, il faut du monde aussi pour que les gens apprécient, mais pour pas qu'il y ait trop de queues non plus au niveau des télescopes, parce qu'on ne va pas en sortir 50.
Voilà, il faut, l'idéal, c'est un nombre idéal, une centaine de personnes.
Hein. Voilà.
Donc c'est pour ça qu'on en fait plusieurs, ça vous permet de venir une fois, pas venir la fois d'après, revenir, etc.
Si pour l'instant, on a de la chance, on a du ciel à peu près clément, même si les cieux n'étaient pas obligatoirement magnifiques, puisqu'en fait, il y a eu quelques jours où il y a eu quelques nuages, mais par contre, on a quand même la chance d'avoir un ciel assez agréable, donc c'est vrai que si jamais il ne fait pas beau, ça permet de reporter au ciel de Nantes suivant. Voilà, c'était pour la petite information au niveau des ciels de Nantes.
Donc samedi, le prochain, 20 juillet.
20 juillet. Et puis la dernière info, puis après on va faire une petite pause musicale pour aborder après les actus astro. On va vous parler quand même de la foire internationale de Nantes qui a eu lieu le mois dernier. Où en fait la société d'astronomie Nantes avait un stand où on vous présentait en fait quelques planètes du système solaire, quelques étoiles, quelques posters.
On avait des panneaux, donc essentiellement sur le système solaire, parce que c'est une manifestation populaire. Et alors, ce qu'on voulait, c'est que les gens, ce qui avait beaucoup bien marché, comme on dit hein, les autres fois, c'est quand les gens pouvaient se peser sur les planètes. On a mis nos balances planétaires, hein, on venait se peser sur Jupiter, donc les dames qui veillaient à leur ligne, on évitait de les faire peser sur Jupiter parce que ça leur faisait plus de 200 kilos, alors c'était pas très... c'était pas génial pour elles, donc on les encourageait à se peser sur Mars ou sur la Lune.
Où la gravité est moins forte, donc c'est vrai que là, les kilos qu'on voit apparaître sont un peu plus agréables.
Et puis on avait notre télescope, et puis bon, c'est très sympathique cette foire, puisqu'on touche un public qui vient pas pour les sciences et qui s'aperçoit que ça peut être drôle aussi, qu'on peut comprendre. Vous savez, le problème des sciences, c'est malheureux, mais même au bout de d'années d'efforts, les gens continuent à considérer que c'est un domaine difficile, un peu scolaire, alors que c'est tout l'inverse. L'astronomie, d'abord, n'est pas très scolaire parce qu'elle n'est pas vraiment enseignée à l'école. Bon, maintenant, ça commence,
mais
même temps, c'est passionnant de savoir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe là-haut.
Moi, j'ai envie de dire que quand on voit l'intérêt des enfants devant les tableaux, devant le télescope, devant les bascules, je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est pas...
Oui, les enfants et les personnes âgées sont beaucoup moins coincés que l'âge moyen. Hein, les gens les plus difficiles à convaincre, c'est les jeunes gens. Les jeunes, aux alentours de la trentaine, ils sont toujours pressés. Hein, ils ont leur créneau, ils vont chercher la baignoire, le truc, le machin, puis tout ça, ça les intéresse pas. Alors, ils ont des petits-enfants, et puis après, vous avez la tranche 40, 50 ans qui sont dans leurs soucis, bref. Et après, ça redevient, non pas qu'ils redeviennent des enfants, mais ils se rendent compte que la vie n'a qu'un temps et que si on s'intéresse, il faut peut-être s'intéresser au monde. Et puis là, on voit renaître un intérêt pour les sciences.
Oui, puis enfin, quand on était sur le stand, on n'a jamais perdu une minute. Il y a toujours eu un va-et-vient continuel qui prouve quand même que les gens sont intéressés par l'astronomie.
Oui, on a du succès.
C'est vrai que c'est assez agréable aussi quand on y va, c'est de ne pas être assis derrière le stand et d'attendre que les gens viennent. On a eu tout le temps du public qui était intéressé, qui nous posait des questions. On a eu des gens qui ont collé des animateurs, qui ont été obligés de demander l'aide à d'autres, parce qu'on n'est pas infaillible, heureusement d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on est des fois chacun nos spécialités, où y a des choses qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on n'hésite pas à vous le dire, et puis à demander à un collègue qui va connaître plus que soi pour répondre à la question. Donc c'était un bon événement.
Alors, messieurs, également, on peut vous signaler que les adhérentes de la société d'astronomie méritent le détour. Hein, et quant à vous, mesdames, les animateurs de la SAN sont beaux, jeunes, fringants. Je dis ça pour les dames et je dis ça pour les homosexuels. On a de très beaux jeunes gens à la SAN.
Voilà, à tous les sens du terme.
Faut être ouvert.
On n'a pas d'animaux, par contre, donc c'est pas la peine d'amener vos chiens et vos chats. On n'en a pas d'animaux. Alors, même si on a eu un chat qui est venu nous faire un petit coucou il y a quelques semaines.
Oui, mais Einstein, je l'ai adopté.
Voilà. Bien, tout de suite, ce sont les Actu Astro par Fabrice Dubreuil. Alors Fabrice, maintenant que tu as bu du champagne pour fêter ton anniversaire, qu'est-ce que tu as eu le temps d'aller récupérer comme information pour notre émission?
Alors d'abord, j'ai pas bu de champagne, j'ai pas eu le temps justement pour venir.
Ah, bon. T'as mangé un gâteau quand même.
Oui, au moins quand même. Attends, ça rose un peu quand même. Bon. Enfin bon.
C'était les 15 ans, toi, Maurice. Alors vas-y.
15, 15 ans, un peu plus quand même, pour connaître. Mais...
Ah bon ?
Les 15 ans CFA, oui.
Voilà, en gros, oui, c'est ça, c'est le bon cours. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il aurait quand même fallu que j'attende cette avant-dernière émission Pulsan pour que mon rêve se réalise.
Wow.
Ouais, vas-y.
Peut-être l'avant-dernière.
Je frémis à l'idée de connaître tes rêves.
Un rêve. J'ai du temps pour ma chronique.
Vas-y.
Je peux dire ce que je veux.
Bah, attends, on va voir si on va couper, si ça devient...
Donc, je vais commencer par l'actualité astronautique.
Vas-y.
Il a une menace très simple. Plus on le coupe, plus ce sera long. Donc,
voilà.
Avant qu'on se réfrène.
Donc, ce mois-ci, vous l'avez sans doute entendu sur différents médias, autres que chez nous, mais bon, c'est que chez nous qu'il y a de bonnes informations. La station spatiale a reçu la visite du deuxième touriste de l'espace.
Alors, on a parlé dans certains journaux de la mission de ce touriste de l'espace. Comme quoi, les gens perdent le sens des mots.
Mais il a eu une mission, ceci. Il a fait des expériences.
Il a eu une mission.
Il a fait des expériences.
Ouais, ils ont une mission.
Il a embarqué des expériences pour les universités d'Afrique du Sud, puisque c'est un Sud-Africain qui l'a emmené. Donc, c'est le Sud-Africain Mark Shuttleworth. Alors, il a été bien nommé, puisque, bon, littéralement, ça veut dire prêt pour la navette. Donc, c'est bien.
Ouais.
Hein, Monsieur Shuttleworth. Il s'est offert son petit rêve d'enfant. Il a payé la modique somme de 20 millions de dollars. Donc 20 millions de dollars, ça a apporté tout le monde, c'est bien connu.
Ouais.
J'ai calculé que ça faisait 1 milliard.
Combien qu'il avait laissé, Jospin ?
Attends.
Combien qu'il a donné, Jospin, pour les fonds secrets ? 2 millions ?
Je ne sais pas.
2 millions d'euros, ouais. Ouais, non, il n'arrivera même pas à partir. 3 millions d'euros,
voilà,
il n'arrivera pas à partir dans l'espace avec
non,
ça.
Non.
C'était pas peine de les garder. C'est pour ça qu'il a dû les rendre. Il ne pouvait pas partir sans la fenêtre.
Enfin bon. Dans le fusil, il redescend. Voilà, à peu près. Donc il a payé 20 millions de dollars pour séjourner du 25 avril au 5 mai, puisqu'ils sont revenus hier, en orbite terrestre. À son retour hier matin, il était ravi, et comme souvenir, il s'est offert, en plus de du vol, la capsule Soyouz avec laquelle il avait voyagé, et le scaphandre de vol. Un coup de chance qu'il n'ait pas voyagé en navette, il aurait acheté la navette.
D'accord.
Enfin, quoi que la navette, peut-être pas, ça coûte quand même 3 milliards de dollars pièce, ces gens-là, donc c'est pas le même tarif. Hein. Alors, c'est une aventure amusante, ça en fera rêver certains, pour d'autres, comme tu dis, ce sera de l'argent gaspillé, bon. Pour moi, personnellement, c'est plus des balbutiements, et peut-être qu'un jour, ce sera chacun d'entre nous pour prendre notre bus pour aller
là-haut. Oh, c'est sympa. Voilà un type.
C'est vraiment sympa.
Après tout,
voilà,
qu'est-ce qu'on claque en bêtises, en sport inutile.
Ça permet de continuer à envoyer des fusées depuis Baïkonour, parce qu'autrement...
Il faut savoir quand même qu'il paye son billet.
Voilà, donc, sur les fonds américains, pour ne pas les nommer, on n'ira pas bien loin.
Donc c'est vrai que c'est important quand même que qu'il faut bien qu'ils trouvent des moyens pour envoyer des hommes dans l'espace quand les scientifiques ils peuvent plus y aller.
D'ailleurs, il faut se poser la question de à qui profite le crime, puisque quand on peut peut-être se rappeler quand Denis Tito, le premier touriste, avait voulu y aller, la NASA avait crié à cri d'offrée, ça avait été non, pas possible, pas un civil, pas n'importe qui là-haut. Ils étaient vachement intéressés, parce que s'il n'y a plus de sous chez les Russes, il n'y a plus de centre spatial russe, et donc tout se passe à Cap Canaveral. Donc pour l'instant, c'est pas plus mal.
À Cap Carnaval.
Enfin bon, revenons quand même à l'actualité, avec ce mois-ci l'installation du premier segment de la poutre maîtresse de la station spatiale.
La poutresse maître.
Voilà. Il y a de l'écho dans le micro, je sais pas si ça vient.
Ouais, c'est ça, oui.
Donc, il y a eu la navette Atlantis a décollé le 8 avril de Cap Carnaval.
De Cap Carnaval.
Voilà. Et elle s'est arrimée apparemment de façon exemplaire. Ils ont appelé ça la navette à baiser, donc à la station spatiale le 11 avril.
L'amiral s'arrima, s'arrime à quoi ? S'arrime à rien. Ça, c'est les prévers.
Et donc, ils ont livré l'élément qu'ils appellent S0 à la station. Et ils ont mis 5 jours à l'installer quand même. Hein.
Ah ouais, mais c'était long.
Mais c'était un gros truc. Donc, ils ont commencé d'abord par le fixer, c'est normal. Après, ils ont branché le courant. Et après, ils ont testé le petit train.
Ils l'ont appelé Poutros Ghali.
Voilà.
Ils
ont joué au train dans l'espace. Tu sais, toi, t'as un train, le train électrique pour les enfants, eux, ils ont un petit train électrique aussi dans l'espace. Ils appuient sur le bouton, le train se déplace, s'arrête à la gare, René Mars se réarrête à la gare, et ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est que ce petit train ? C'est un chariot automobile, on va dire. Enfin, pas tout à fait, mais... Qui est fixé sur la station, sur la poutre, qui se déplace sur un rail, donc le chariot pèse quand même 855 kg. Bon, la poutre pèse 12 tonnes, donc bon.
C'est un petit train à l'échelle de la station.
C'est un petit train. À terme, il transportera le bras manipulateur de la station, et ça permettra, pour les astronautes qui seront en train de faire des travaux à l'extérieur...
Comment il s'appelle, le grand manipulateur de la station ?
Je ne sais pas. George W., son prénom. Mais à terme, quand tout fonctionnera, les astronautes qui seront en train de travailler à l'extérieur de la station, je vous avais dit il y a quelques mois qu'ils avaient installé déjà des prises, eux, pour s'accrocher, bah, le petit train leur amènera les outils, les objets dont ils auront besoin, ça évitera de faire toute la station en long en large pour aller chercher les éléments.
C'est vrai que c'est assez pratique, parce que faut savoir que là, vous êtes en état d'apesanteur, donc chez vous, à la rigueur, vous transportez votre sac avec vos outils, vous les posez. Ouais. Le problème, c'est que là, si vous les posez n'importe où, si vous donnez une petite impulsion, les outils se déplacent. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir des choses bien fixes.
En plus, ce qui est pratique, c'est que ça évite d'avoir les outils sur soi.
Voilà.
Parce que, mine de rien, c'est encombrant, ces choses-là. Donc, là,
quand tu te balades dans la navette, tu les prends dans la figure.
Voilà. Surtout qu'il en faut deux types d'outils à chaque fois.
Voilà, aux normes américaines, aux normes européennes, puisque bon, tout est en deux normes là-haut. Puisque bon, on ne verra pas sur les détails. Voilà. Mais bon. Enfin, tout ça, c'est pas mal passé. Bon, le petit train, il y a un peu de panne à démarrer. Mais ça, je ne dirais pas, c'est un paramétrage qui a été fait aux États-Unis. Ils le donnent en 1000, ils ont paramétré le petit train, il s'arrête à la gare avec des aimants. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un capteur qui, en fonction de la distance au rail, active ou non des aimants. Sauf que c'était fait sur Terre, à gravité terrestre. Oh, et qu'en apesanteur, les distances ne sont plus vraiment les mêmes. Donc il va falloir paramétrer le système informatique pour que ça gère le fait que la distance entre le petit train et les rails n'était pas la même.
C'est une catastrophe.
Voilà. Mais bon, maintenant ça fonctionne. Donc la navette est revenue le 19 avril, sans problème. Avant de passer à l'espace européen, je vous donnerai quelques nouvelles de la lance spatiale chinoise, puisqu'il se passe des choses en Chine.
Voilà. Oui.
Puisqu'après avoir envoyé trois vaisseaux Shenzhou, alors les vaisseaux Shenzhou sont les capsules, elles sont un peu sur le modèle de les capsules Apollo. C'est un peu le même modèle. C'est des capsules que la Chine est en train d'envoyer depuis quelques années
pour les tester, pour préparer
un vol habité. Ils veulent envoyer des taïkonautes, ils appellent ça. Des astronautes chinois, donc les taïkonautes. Voilà. Les taïkonautes. Il y en a 12
c'est
déjà.
C'est les nouveaux Pikachu.
Non, c'est les taïkonautes. Il y en a déjà 12 dans le corps de taïkonautes. Qui sont prêts à partir dans l'espace. Et donc, les trois premières missions sont très bien passées. Et la Chine annonce qu'ils vont envoyer une Shenzhou 4 à la fin de l'année, qui va tester les procédures en automatique toujours d'arrimage entre le module orbital et la capsule. C'est vraiment des termes des missions Apollo, c'est exactement ça. Et si tout se passe bien, normalement, on va partir un ou deux Chinois dans l'espace début 2003 ou 2004. Donc on voit que ça va quand même aller très vite maintenant. Je ne vous parle pas des Américains pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien passé à la NASA ce mois-ci.
Ça, c'est de l'actu, ça.
Donc comme ça, je ne vous en parle pas. Et donc, comme promis...
Bah, on va critiquer qui, alors, nous ?
Bah, comme promis, je passe à l'espace européen.
Vas-y.
Ah, oui.
Alors, des choses très bien.
Tout d'abord, je vous l'avais
annoncé comme avenir. Ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 avril, sans problème. Ariane a décollé de Cap Canaveral. On n'a pas encore arraché à NASA.
De Kourou. De
Cayenne. Voilà, c'est à côté. Ouais. On se rattrape. Pour la 150e fois.
C'était quand même un petit anniversaire.
C'était le 150e vol de la fusée Ariane. Donc c'est une fusée Ariane 4.
On sait tout, nous. On sait tout.
C'est une fusée Ariane 4 qui a décollé du centre spatial avec à son bord un satellite de télécommunication NSS-7 de son petit nom. Bon, ce sera de la télécommunication N+. En continuant à s'en lancer, parce que quand ça marche bien, on continue.
Voilà.
Ariane a redécollé dans la nuit du 3 au 4 mai. Et là, c'est un autre fleuron de l'astronautique européenne qui a été mis en orbite, c'est Spot 5. Alors, on connaissait déjà Spot 1 à 4. Et bien, Spot 5, c'est la même chose, mais en mieux. Ah. Avec donc toujours les mêmes capteurs, les mêmes caméras pour filmer la Terre, toutes les images qu'on a vues. Le nouveau système pour vérifier la végétation, justement Végétation 2, mm-hmm. qui permet de suivre l'évolution des forêts, voir la déforestation, voir comment surveiller les parcelles agricoles, puisqu'il faut... Quand on parle d'astronomie européenne, une utilisation de Spot, par exemple, c'est, on a vu des images, on va prendre en Grèce, tiens, et en Grèce, on va pouvoir compter les oliviers dans le livret, avec une image Spot, à l'arbre près.
Oui, on va pouvoir surtout vérifier que les types, ils déclarent pas des...
Exactement. Voilà. À quoi ça sert ?
Ça sert à espionner les agriculteurs.
Ça sert aussi à répartir les subventions européennes, on va le dire.
Voilà.
De manière cohérente.
On va vérifier qu'ils ne touchent pas des subventions indues.
Et bien, voilà. Compter les pieds de pavot. Comme ça.
Alors, on dépense un argent fou pour éviter de donner un peu moins...
Non. C'est une des utilisations. D'autres utilisations beaucoup plus intéressantes, c'est sur voir si telle ou telle zone est utilisée, l'impact aussi d'une zone industrielle sur l'environnement. Enfin, c'est très intéressant.
Non, c'est vrai.
Donc, c'est le 7e satellite lancé par Ariane depuis le début de l'année.
Elle a un bon rythme, là.
Enfin, 7, exactement 8. Je vous le dirai pourquoi après. Donc, 7 satellites et 6 lancements, 5 Ariane 4, 1 Ariane 5. Donc depuis le début de l'année, c'est pas mal. Avant le lancement de Spot, on était à 19 tonnes lancées depuis le début de l'année. C'est pas mal. Pourquoi je vous dis 8? Parce qu'avec Spot 5, dans la coiffe, il y avait un autre satellite, IDFX.
Ah oui, c'est génial ça.
Non, c'est pas le Shadow BX. C'est IDFX. Et IDFX,
c'est un satellite français.
C'est un satellite français.
Vous pouvez vous en douter par rapport au nom.
C'est un satellite français. Son nom, c'est peut-être un hommage à Astérix, je sais pas. Toujours est-il. Non, c'est pas dit. Toujours est-il que c'est une expérience, c'est surtout un programme de coopération. C'est une expérience qui a été montée par et pour des radioamateurs, qui a été sur un micro-satellite, qui a une durée de vie de 25 à 60 jours, en 2 mois, il ne sera plus là, quoi. Et que Ariane Espace a envoyé, il y avait de la place dans la coiffe d'Ariane à côté de Spot 5. Bah, question de ne pas perdre de la place. On peut lancer une masse donnée avec Ariane, autant de tout lancer. Donc le satellite est en orbite, et apparemment ça va fonctionner. Enfin bon, une fois de plus, ça marche depuis quelques années pas mal. C'est la coopération entre Ariane Espace et les amateurs, puisque bon, bah, dès qu'il y a un peu de place, on n'oublie pas qu'il y a des universités ou même des groupements qui peuvent avoir des expériences à tenter, qui n'ont pas les moyens de se payer un lanceur.
Tout à fait.
De son côté, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a présenté le nouveau vaisseau développé par l'Europe et qui est destiné à remplacer les Progress pour le ravitaillement de la station spatiale internationale.
Il faut rappeler que les Progress, c'est les vaisseaux
Progress,
russes.
C'est les vaisseaux russes qui actuellement fonctionnent très bien, qui fonctionnent avec Mir, qui fonctionnent avec Salyut, qui fonctionnent depuis très longtemps. Bon, les vaisseaux qui vont... Bon, des fois, ils se plantent, ils rentrent dans les panneaux solaires des stations, mais bon, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Ça marche très bien, vu le nombre qu'on envoie. Et le vaisseau s'appelle Jules Verne. Hein, c'est un joli petit hommage.
En plus.
Hein,
c'est bien ça.
Donc, il a été entièrement développé par l'Europe. C'est la partie européenne, vraiment, à la mission. Ce qui est à peu près une chance qui se réalise, puisque, bon, il faut savoir que le vaisseau de sauvetage qui devait remplacer les Soyouz, parce qu'actuellement, sur la station, il y a un Soyouz d'urgence, au cas où... Un vaisseau russe, toujours, qui devait remplacer, qui permet, si jamais il y a une dépressurisation ou n'importe quoi, ou un feu dans la station... à l'équipage à être réfugié dans le Soyouz et au pire d'en descendre sur Terre en urgence.
Et de s'éjecter.
Voilà. Normalement, il y avait un nouveau vaisseau qui devait être de plus grande capacité malgré tout, parce que sur la station, pour l'instant, à cause du Soyouz, on ne peut pas mettre plus de 3 personnes en permanence, puisqu'il ne peut pas en ramener plus de 3.
C'est un peu le principe des règles de sécurité. Vous pouvez trouver plus ou moins chiante ou débile, comme on dit vulgairement, chez vous ou dans vos structures habituelles où vous n'avez pas prévu d'être plus de 20 parce qu'il n'y a qu'une porte de sécurité, etc. Bah, faut savoir que dans l'espace, c'est pareil. Le vaisseau, c'est l'inverse du Titanic. Ils n'ont pas mis plus de personnes que de navires de sauvetage. Donc là, il y a 3 places. Donc 3 personnes maximum.
C'est un peu dommage. Des fois, quand vous regardez la télé, vous pouvez voir qu'il y a 5, 6, 7 personnes dans la station. C'est vrai, mais généralement, la navette est arrimée dans ces cas-là. Ouais. Même toujours, c'est pas généralement. Et donc, dans la navette, on peut ramener aussi 7 autres personnes. Donc ça en fait 10 qui pourraient être dans la station à ce moment-là. Enfin, toujours est-il qu'il devait y avoir un nouveau vaisseau qui devait remplacer le Soyouz, vaisseau de sauvetage, développé par les Américains. Et il y a eu des coupes de crédit, donc a priori, ce serait encore oublié. Donc les Russes qui voulaient que l'équipage de la station passe à 6 personnes, ils vont attendre.
C'est un peu dommage.
Voilà, c'est un peu dommage. Pour finir sur l'espace européen, je vais quand même vous parler du CNES, puisqu'il y a eu 2 contrats pluriannuels signés ce mois-ci. Des contrats de 5 ans, 2002-2006. Ça fait 5 ans, complet. Ouais. Qui vont permettre, pour l'un, c'est le financement du centre spatial guyanais entre le CNES et l'ESA, donc c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a des sous pour 5 ans. Et le deuxième, c'est le plan État-CNES juste pour la France, mais qui va permettre de financer aussi en bonne partie pour 5 ans la recherche technologique pour tout ce qui concerne l'espace pour les 5 ans à venir. Donc c'est quand même assez intéressant de savoir que ces choses-là ont été signées, ça donne un peu de mou, on va dire, pour les 5 années à venir. Passons maintenant à l'actualité astronomique, disons plutôt à la science-fiction généralisée.
Ah.
Oui, puisque je vais commencer à vous parler, nous entrons à présent dans la 11e dimension, saviez-vous?
Ah bon?
Oui, vous en avez 5, on rentre dans la 11e dimension. Puisque, selon la dernière théorie en vogue chez les cosmologistes, l'univers ne serait pas en expansion depuis environ 15 milliards d'années avec une espèce de soi-disant Big Bang au début d'une grosse explosion qu'on ne sait pas comment expliquer, mais plutôt en fluctuation depuis bien plus longtemps, depuis belle lurette, et actuellement ce ne serait qu'une période de croissance de 14 qui durerait depuis 14 milliards d'années, mais il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. L'avantage de la théorie qu'ils ont appelée théorie M, c'est tout, théorie M, c'est que ça s'affranchit complètement du Big Bang, du Big Crunch, puisqu'on n'a pas besoin d'expliquer, puisque ça explose jamais, ça s'effondre jamais, ça ne fait que fluctuer.
D'accord.
Pratique.
Pratique.
Enfin bon, donc dans la théorie, il n'y a plus de Big Bang, plus de Big Crunch.
À des discours de certains hommes politiques.
Mais il faut savoir que dans la théorie M, l'univers qui est décrit dans la théorie M est un univers à 11 dimensions.
11.
Voilà, 11 dimensions, et il n'y en a que 4 que nous sommes en mesure d'appréhender.
Ah, il en fallait 7 de plus.
Il en fallait 7 de plus pour expliquer pourquoi ça fluctue. Pourquoi
ça fluctue, d'accord.
Alors, il parle de brames, qui sont des membranes, qu'il y a un 6 mm Big Bang ou un 6 mm Big Crunch quand deux brames rentrent en collision l'une avec l'autre. Enfin bon, c'est du délire profond. Pourquoi? Enfin, la cinquième dimension, ça m'a déjà fait écrire de longs romans. Alors, pour la onzième, adressez-vous aux cosmologistes, j'irai pas plus loin.
Oh là là.
Après la onzième dimension, je vais passer à la planète V.
C'est encore mieux celle-là.
On est en pleine science-fiction ce mois-ci.
C'est la science-fiction alors.
Donc là, c'est une simulation informatique qui a été présentée au 33e Lunar and Planetary Science Conference. Je ne sais pas où ça s'est passé, mais ils ont présenté ça.
C'est les Américains qui disent conférence pour dire congrès.
Et donc, il aurait existé il y a environ 3,9 milliards d'années,
oui,
une planète qu'ils ont appelée planète V, qui serait trouvée entre l'orbite de Mars et la ceinture d'astéroïdes. Et pourquoi elle ne serait plus là aujourd'hui? Parce qu'une planète à cet endroit-là, ça entraînerait les perturbations d'un ceinture d'astéroïdes.
Mm-hmm.
Les astéroïdes sont mis, entre autres, à changer d'orbite, à croiser l'orbite de la planète V. Ça a perturbé l'orbite de la planète V, et elle a fini dans le Soleil. Donc elle n'est plus là aujourd'hui. Mais cette simulation prévoit aussi la création de la Lune par collision avec un corps de la taille près de Mars. Donc, bon, ils ont pris ça au sérieux. Donc, actuellement, on a donc un univers à 11 dimensions, une planète V.
Qui pue là?
Qui est plus là, mais bon, l'univers en 11 dimensions, on n'en voit que 4.
D'accord.
Voilà.
C'est parti.
Bon, revenons un peu plus en sérieux maintenant, pour finir avec deux choses. D'abord, le télescope spatial.
C'est la fois qu'il dit pour finir.
Ouais, mais c'est une façon de me dire
que. C'est une façon de nous faire patienter.
Qu'il n'y en a plus pour longtemps.
Voilà.
Voilà. D'abord, donc XMM, qui a fait parler de lui. XMM, je vous rappelle, c'est une satellite qui observe les rayons X européens, qui avait été lancé par Ariane.
Annoncé par Pulsar.
Voilà. Et donc XMM,
annoncé par Pulsar, lancé par Ariane.
Voilà,
c'est merveilleux. À une conférence
le
de la
coq qui par son chant faisait lever le soleil.
Et présenté lors d'une conférence de la SAN par Roger Maurice Bonnet.
En plus.
Ah oui, en effet, par monsieur Roger Maurice Bonnet, à la Cité des Congres.
Donc XMM, sous l'égide de la SAN.
Voilà, sponsorisé par la SAN.
Bon, restons sérieux, messieurs, c'est pas parce qu'il y a eu des élections que vous devez être facétieux.
Voilà.
Bon. Toujours est-il que XMM vient de lever un mystère, enfin lever une partie d'un mystère. Vous avez sans doute entendu parler, ou si vous n'avez pas entendu parler, je vous explique rapidement ce que c'est, les sursauts gamma. Les sursauts gamma, ce sont les explosions les plus puissantes qu'on ait jamais observées dans l'univers. Et les premières ont été observées en 1967. Pourquoi pas avant, me direz-vous? Parce qu'avant, en 1967, on a lancé des satellites qui étaient censés vérifier l'application du traité de restriction des essais nucléaires sur Terre.
Il faut savoir qu'un essai nucléaire, ça rayonne,
ça fait des émissions gamma. Donc, au moment de l'explosion, il y a un énorme flash d'énergie dans le rayonnement gamma, qui sont les rayons les plus puissants qui existent. Et les satellites, ils ont observé la Terre, et un jour, il y en a un qui voit un flash gamma. Ah, un test, non, parce que le flash gamma venait pas de la Terre, mais de l'univers lointain. C'était le premier qu'on a observé.
C'est souvent comme ça, en fait. Hein. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont par hasard, où on détecte quelque chose.
Et puis, bon, depuis des années, on les observe. On envoie des satellites maintenant pour les observer. Et puis, il y a un satellite qui s'appelle Biposax, qui est un satellite italo-néerlandais, qui, le 11 décembre 2001, a observé un flash gamma, le plus long qu'on ait jamais observé. Il a duré 3 minutes quand même. Donc,
oui, ça s'appelle des flashs, c'est pas pour rien. Hein.
Ça a duré 3 minutes. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais su, on ne savait pas si un flash gamma c'était dû à une supernova ou à la collision entre deux étoiles à neutrons. Il y avait deux hypothèses. Et maintenant, on a XMM qui est là. XMM, il observe un rayon X. Et un rayon X, qu'est-ce que c'est? C'est un rayon gamma qui a un peu perdu son énergie.
Voilà. C'est très proche du gamma, en fait.
Voilà. Donc, dès que Biposax a vu ce flash gamma, ils ont prévenu l'équipe de XMM qui a utilisé le télescope et qui, 11 heures plus tard, parce qu'il faut quand même le temps pour qu'il arrive à la bonne position, il était pas du bon côté de la Terre, bon, l'a mis en position, 5 heures juste à temps, puisque 5 heures plus tard, ça a été trop tard.
Oui.
Et XMM, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, lui, une sphère de matière en rayon X en expansion. Et ça, c'est une supernova.
D'accord, très
donc
bien.
Maintenant, on sait par XMM que ce flash gamma a été créé par une supernova. Et si on prend cette hypothèse-là, cette observation-là, on pourrait quasiment dire que tous les flash gamma sont dus à des supernovas.
D'accord.
D'après les nouvelles études. Donc c'est quand même une sacrée avancée qui a été faite. Là. Enfin maintenant, ça reste à confirmer parce que le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas à quoi ils sont dus. On sait à quoi ils sont liés, mais on ne sait pas ce qui les déclenche. Ouais. Apparemment, ça pourrait être, par exemple, une des hypothèses serait que le flash gamma serait ce qui déclenche la supernova.
Ou l'annonciateur, ou alors
la bouffée d'énergie qui déclencherait l'explosion de l'étoile.
Enfin, quelque chose est relié, concomitant. Voilà. Est-ce que c'est cause ou effet?
Enfin, maintenant, on sait que l'un est lié à l'autre. Maintenant, et enfin, on va terminer.
Terminer.
Voilà. Bah,
non.
Si. Une dernière simulation informatique a été présentée à un congrès d'astronomes à Bristol, comme quoi il y aurait 1 milliard de planètes comme la Terre dans notre galaxie, rien que ça. Et comment ils ont fait ça?
Ils ont pris tout. C'est pas beaucoup.
Comme la Terre, ça fait déjà.
Oui, 1 milliard comme la Terre.
Ouais. Voilà, comme la Terre et qui serait non pas théorique, mais qui existerait réellement.
Qui serait dans notre galaxie.
Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris des étoiles qui ressembleraient à la nôtre, au Soleil. Mm-hmm. Ils ont placé toutes les planètes en position théorique. Théoriquement, voilà, elles pourraient être. Ouais. Après, ils ont fait jouer toutes les perturbations qui pourraient envoyer des planètes dans le Soleil, comme la planète V. Mm-hmm. Et ils en tombent sur à peu près 1 milliard de planètes qui resteraient aujourd'hui. Dans notre galaxie. Maintenant,
c'est pas un peu prématuré, ça, comme...
Comme ils disent, non, mais ça, c'est un calcul. Après, ils disent, de là, ce qu'on les observe, pour l'instant, on s'est à peine observé, on est à peine à se dire comment observer les planètes de la taille de Jupiter, donc les planètes de la taille de la Terre, on n'en est pas rendu.
Oui, parce que, bien, mais, je veux dire, au niveau du système solaire, on a encore pas mal de choses à confirmer au niveau des déplacements des planètes, donc je trouve ça un peu prématuré.
Voilà, c'était donc les dernières annonces.
Tout ce qu'il faut savoir, avec la Société d'Astronomie de Nantes.
Tu vas les faire douter, on est vraiment en direct. D'ailleurs,
ouais,
ça s'entend.
Hein. Oui, ça c'est clair. Il y a des blancs, il y a des couacs.
Non.
Et maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la relativité, notre cher président va essayer de vous expliquer relativement, clairement, sans... faire des phrases trop compliquées relatives. Hein? Donc ça va être la relativité par Daniel Morling.
Mon Dieu.
Arrête de rigoler et puis essaye de parler maintenant.
Alors ici, une émission très ringarde avec notre ami Thierry qui m'a annoncé.
Vas-y.
C'est très patronage. Hein. Je vais essayer relativement de... Alors, je vais vous parler de la relativité à 22h30. C'est pas mal hein, comme exploit. Alors d'abord, bon, pourquoi la relativité? Parce que à la Société d'Astronomie Nantes, on vivait sur une frustration comme tous les scientifiques ou scientifiques amateurs. Il y a des sujets que nous n'avions pas... dont nous avions quelques vagues connaissances, comme tout le monde, et qui, ma foi, nous interpellait, comme on dit. Et c'est toujours très difficile de s'y retrouver dans tous ces livres qui existent, qui sont à moitié scolaires, plus ou moins exacts, d'ailleurs, puisque nous avons détecté pas mal d'erreurs. Alors, quand ils auront fini de faire les singes autour de moi, et que je pourrais me concentrer, parce que je suis sur un sujet difficile, je vous signale, et moi, la nuit, je ne mens pas. Voilà. Alors, la relativité, qu'est-ce que c'est? Et d'abord, est-ce qu'on est concerné? Ça, c'est la première question que je me suis posée. Je peux pas, Thierry, je me...
On va les faire sortir, les clowns, là.
Bon. Est-ce qu'on est concerné par la relativité? Ça, c'est une question qui m'a frappé.
C'est quoi ta question, exactement? C'est-à-dire, est-ce que nous, on peut la comprendre ou est-ce que ça nous sert tous les jours?
Pas, c'est surtout, est-ce que ça nous sert? Est-ce que ça sert à quelque chose de comprendre quoi que ce soit à la relativité? Parce
d'accord.
Que j'ai fréquenté...
Ça va vous servir à quelque chose pour acheter mon pain, par exemple?
Certainement pas, et voilà. Ça, à 80% des astronomes, ça ne sert à rien non plus. Hein? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un sujet de connaissance, et d'abord, c'est une connaissance qui est apparue, alors on croit qu'elle est apparue au XXe siècle, mais il faut savoir que ça date de Galilée. Alors, je vous donnerai quelques idées tout à l'heure là-dessus. Alors déjà, il y a deux aspects dans le concept de relativité. Hein? C'est pas ce qu'on entend d'habitude, que les choses sont relatives, ça c'est ça faut évacuer. Il y a deux choses, il y a le mouvement. Le mouvement des objets les uns par rapport aux autres qui fait que les phénomènes, lorsqu'on les observe d'un repère, d'un certain point de vue, qu'on va appeler un repère, ou pour employer un mot plus scientifique, un référentiel. Nous sommes, nous, assis sur Terre, nous sommes dans un référentiel, nous sommes dans un repère qui se balade. Et on croit en fait qu'on est immobile. En fait, c'est un peu comme quand on est assis dans un train et que tout d'un coup, on croit que le train avance ou recule alors que c'est le train d'à côté qui avance.
Le démarrage de la gare, on ne sait pas en fait si c'est le train d'à côté qui part ou si c'est nous qui recule.
Voilà. Alors, il y a déjà cet aspect-là que tout le monde peut éprouver hein, dans son expérience sensible. Alors, il faut savoir que, bon, là, ça paraît pas très important, mais en fait, en astronomie, ça a une conséquence assez importante, puisque, comme nous ne connaissons pas notre mouvement dans l'absolu, hein, parce que par rapport à quoi on serait en mouvement d'une certaine vitesse, on ne le sait pas. Donc, tout ce qu'on va mesurer des autres corps, c'est le mouvement qu'ils ont par rapport à nous, qui nous-mêmes sont en mouvement. Et ce mouvement, on ne sait pas s'il est uniforme ou s'il est accéléré. Alors, en fait, on va voir aussi que quand on observe les choses de la Terre qui se déroulent dans un autre référentiel qui est en mouvement, eh bien, ce phénomène physique va être déformé par le mouvement. Et cette déformation, il faut la connaître pour pouvoir corriger ce qu'on observe, pour pouvoir effectivement réellement le mesurer. Et ça, toute cette histoire de comment corriger les mesures qui sont faites depuis la Terre pour pouvoir rétablir la vérité du phénomène, ça, ce sont les fameuses transformations qu'il faut faire sur les mesures, les transformations de Lorentz, hein, notamment. Et pareil, j'essaierai de donner un petit peu plus d'informations tout à l'heure. Je termine rapidement les deux aspects de la relativité. Il y a l'aspect mouvement, comme je l'ai dit, et deuxièmement, il y a l'aspect énergie. C'est le fameux E égale mc2. C'est-à-dire, en fait, on va voir que l'étude de la relativité sur le plan du mouvement des corps va avoir des implications au niveau de la mesure des énergies.
Pour ça, ça s'appelle relativité, c'est que les mouvements sont obligés de les mesurer en relatif,
tout
donc faire des
relations
de référentiel, puisque en fait, quand on prend l'exemple du train tout à l'heure, pour savoir lequel des deux trains avance ou recule, on prend comme référentiel le sol, alors que prenez le cas où il y a une étoile, vous êtes sur une planète, vous savoir
vous
si l'étoile elle avance, si c'est vous qui reculez,
le
problème c'est que là vous n'avez pas de sol pour savoir.
Voilà, vous n'avez pas de sol. Et on va voir aussi que le seul moyen que vous ayez de savoir ce qui se passe, c'est de recevoir un signal, mais ce signal a lui-même une vitesse. Alors là, on est très embêté, ça s'appelle la lumière, et si on connaissait la vitesse de la lumière, tout serait bien, et tout le monde croit la connaître, et je dirais tout à l'heure pourquoi on ne la connaît pas, et pourquoi finalement on l'adopte cette vitesse.
Voilà.
Alors, bien, rapidement sur la physique du mouvement. Pourquoi parle-t-on tant de mouvement en physique? Qu'est-ce que ça a à voir avec les phénomènes physiques en eux-mêmes? C'est très simple, parce que les objets, les seules transformations, la transformation, si on veut, la plus élémentaire que nous puissions bien appréhender, bien connaître, c'est le mouvement. Hein. Vous savez qu'en fait, depuis les Grecs, en fait, les Grecs avaient observé que les choses se transformaient avec le temps. Alors ça, c'est la première des constatations, c'est que les choses dans la nature changent d'aspect, et ce changement d'aspect se fait avec des causes que l'on ignore, mais en tout cas, l'une non pas la cause, mais le phénomène auquel on peut les rattacher, ça s'appelle le temps. Et très vite, en physique, en science, le temps va apparaître comme une espèce de cause formelle, c'est-à-dire une cause, on sait que c'est pas la cause, mais en tout cas c'est par rapport au temps que l'on peut décrire les phénomènes. Et quand on a quelque chose qui ne change pas d'aspect et dont le seul changement c'est la position, ce changement de position s'appelle le mouvement. Ce mouvement se décrit par rapport au temps et on va donc établir ce qu'on appelle des équations, qui sont les relations qui vont lier le temps à la position des objets et d'une manière continue. Alors ça, c'est déjà une première idée, c'est l'idée des lois du mouvement. Ces lois du mouvement, vous le savez, sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle le calcul infinitésimal. On avait fait une émission à un moment donné là-dessus, on va pas y revenir, c'est simplement pour dire qu'on va découper l'infinité des positions de ces segments que parcourent les objets, en une infinité de petits segments, pour pouvoir calculer. Alors, on va arriver à la notion de vitesse, etc., etc. Alors, ces mesures que l'on va faire sur la position des objets vont transformer la notion de temps subjectif, celle qu'on avait, en la notion de temps objectif, c'est-à-dire le temps mesurable, le temps scientifique. Et alors là, on arrive à une première idée, cette espèce de caractère absolu du temps. Newton disait, le temps s'écoule d'une façon uniforme et établit la relation mathématique entre le déroulement des phénomènes et lui-même.
Pour illustrer un petit peu, c'est-à-dire que quand tu disais la partie importante du temps, c'est que c'est vrai que ça nous fait un référentiel. C'est pas un référentiel de mouvement, etc., mais ça nous fait quelque chose.
Ça fait quelque chose, oui.
Qu'on peut essayer de comparer. Alors, par rapport à, c'est quelque chose d'intéressant de savoir que c'est quelque chose qui est indépendant des référentiels qu'on va prendre.
Très bien. Et ce que tu disais, Thierry, à propos du temps, on va le voir aussi arriver à propos de l'espace.
Voilà.
Einstein a une très belle façon de définir l'espace absolu. Il dit, voilà, prenons un objet. On peut définir la position de cet objet. On peut définir la position d'un deuxième objet. Et mettons que si cette position du deuxième objet, si ce deuxième objet a trois ou plus de points communs avec le premier, on peut dire que ça forme un seul objet, et le deuxième apparaissant comme le prolongement du premier. Donc on peut imaginer que chaque objet peut se prolonger ainsi d'une façon infinie. et que toute position dans l'espace, ça revient à additionner des objets entre eux ou des points. Et on arrive à cette notion mentale que l'espace, c'est quelque chose qui est indépendant des objets, que l'on peut mesurer et qui a des dimensions et qui est fixe, qui ne peut pas se dilater, se contracter. Hein? Donc c'est la base de ce qu'on appelle la géométrie euclidienne. Géométrie, ça veut dire géo, c'est la Terre. Mmh. Hein? Et quand on définit une géométrie de l'espace, en fait, on part de la Terre et on projette ça dans l'espace, un peu comme si les mesures d'espace étaient indépendantes des objets qui peuplent cet espace. Ça, c'est la notion d'espace absolu. On verra qu'elle est en défaut dans la science, parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir si un espace est absolu. Il n'y a que les objets qui nous définissent cet espace, et ces objets sont en mouvement relatif. Alors déjà, vous commencez à percevoir l'une des difficultés de la perception de l'espace qui n'est certainement pas absolu. Hein. Alors en tout cas, ça c'est donc une première étape que franchit la science, c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, la physique de Newton, l'espace et le temps absolu. C'est là que entre en scène la relativité du XXe siècle. Alors juste un mot avant la relativité du XXe siècle, ce que disait Galilée, qui donne un très bel exemple de relativité, il le décrit exactement comme ça, il dit, prenons un bateau qui se meut, ouais, sur un fleuve. Et on imagine que ce bateau soit transparent et que quelque part sur ce bateau, il y a un passager qui dessine le portrait d'un autre passager. Donc sur sa feuille, il va dessiner la tête de son interlocuteur. On va voir un visage avec un nez, etc. etc. Bon. Imaginons si, de la rive, un spectateur pouvait voir le cheminement du crayon du dessinateur sur sa feuille. Imaginons aussi que ce dessinateur, en même temps qu'il dessine sur la feuille qui est devant lui, il y a un prolongement du stylo qui dessine sur une feuille imaginaire qui se déroule tout au long du parcours du bateau. Quelle forme prendrait le visage de la personne dessinée sur cette feuille-là ? Elle serait bien entendu toute autre. Toute autre tout simplement parce qu'on a changé de référentiel. Sur le référentiel bateau, le visage est un visage. Sur le référentiel terre ferme, ce visage est totalement étiré et ne ressemble plus du tout à un visage. Et pour savoir que c'est un visage, il faut donc faire des transformations géométriques de ce visage dessiné pour restituer la réalité physique de ce visage.
Tout à fait, c'est-à-dire en fait, il suffirait mathématiquement de soustraire dans l'autre sens la trajectoire du bateau.
Exactement.
Et en fait, au niveau mathématique, c'est très, très simple, à partir d'une force très simple, de revenir en arrière. C'est un peu l'exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, on va voir, c'est l'exemple un peu de la roue. Le dessin quand on met un point sur une roue de vélo et qu'on dessine son,
c'est exactement le même, voilà,
sa trajectoire, ça ressemble un peu avec des petites boucles et puis une grande boucle.
Non, ça s'appelle, il y a pas de boucle, ça s'appelle un cycloïde.
Oui, mais c'est ça,
il y a même pas de boucle.
Non, ça remonte, oui, ça fait des espèces de sauts et puis c'est plutôt ça. Et c'est vrai qu'avec si on vous montre juste cette trajectoire là, vous êtes incapable à la rigueur a priori
de savoir
que c'était une roue au départ.
Voilà.
Par contre, si vous revenez en arrière et vous soustrayez en fait la trajectoire qu'on vous donne de la roue, vous arriverez à dessiner un cercle à partir de ça.
Voilà. Alors, c'est exactement ça le problème, c'est-à-dire dans les exemples qu'on a cités, on connaît bien sûr le mouvement de la roue et on connaît les deux dessins qui sont d'une part par rapport à la roue elle-même, le référentiel où le gars qui est sur son vélo, il voit très bien le mouvement, mais par rapport à quelqu'un qui reste fixe, c'est un autre mouvement. Alors ceci est très bien dans l'imagination quand on connaît le mouvement des deux. Le problème, c'est que pour faire ces corrections-là, je suis obligé de connaître évidemment le mouvement de la chose qui se passe dans l'autre référentiel, c'est-à-dire qu'il faut que je connaisse avec certitude la vitesse, par exemple la vitesse du bateau, en tout cas la vitesse du référentiel, si cette vitesse est accélérée ou pas.
Oui, parce qu'on prend le cas entre guillemets simple où le bateau va à la même vitesse et
voilà, on prend un cas qu'on connaît les paramètres, mais là on est dans l'espace, on connaît rien, on voit un truc. On ne sait pas si ce truc, on l'observe nous de la Terre, on ne sait pas si le référentiel sur lequel ça se produit, il est oui ou non en mouvement,
ou pas. Et quel mouvement ?
Et alors, surtout, le problème, c'est que la chose qui nous renseigne sur ce qu'on voit, ça s'appelle la lumière, ou ça s'appelle n'importe quelle onde électromagnétique. On pourrait aussi imaginer que ce soit un facteur avec un vélo qui vient de nous apporter la nouvelle. Dans l'imagination, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a une vitesse limite, qui vient nous renseigner. Et là, ça se complique.
Ah, ça se complique à des grandes échelles.
C'est-à-dire que si je connais cette vitesse Non, à, la grande, à des grandes échelles, bien entendu. Voilà. C'est pour ça que je dis, on n'est pas forcément concerné, parce que ça va nous déformer les choses, finalement, à quoi ? Ça va nous les déformer à des vitesses qui sont, qui commencent à être importantes par rapport à celles du messager. Si le messager, je prends un exemple, par exemple, si le messager, c'est quelqu'un en vélo qui vous apporte, qui vous dit, voilà, ta grand-mère est en train de sourire, ou ta grand-mère, elle fait la gueule. Si votre grand-mère est de l'autre côté de la route, et que le messager met une seconde pour arriver, vous aurez une seconde de décalage, vous saurez que si vient vous dire que votre grand-mère sourit, il y a de fortes chances qu'elle sourit encore au moment où il vous le dit.
Voilà.
Et à un moment donné, vous pouvez reconstituer le mouvement de son visage à partir des nouvelles successives qui vous arrivent. Ceci n'est plus possible si le type met une heure à traverser la route, ou si votre grand-mère est à Quimper, qui prend le train pour vous dire qu'elle sourit, qu'il arrive à Nantes, et au moment où il vous le dit, votre grand-mère est peut-être déjà dans son lit en train de dormir. Mmh. Donc, il y a un problème après de décalage. Alors, tout irait bien si on connaissait la vitesse de ce messager, c'est-à-dire la lumière. Alors, mais pour la connaître, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait se mettre sur un repère au repos, mesurer un message qui passe. Voilà. Le problème, c'est que la Terre, elle n'est pas au repos. Donc, on va mesurer la vitesse de la lumière sur la Terre. Alors, on va la mesurer dans différentes conditions, et c'est là qu'intervient l'expérience de Michelson Morley, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement fait, ils ont balancé la lumière, si on peut dire, dans une direction, parallèle au mouvement de la Terre, ils l'ont balancé dans l'autre direction, ils ont un dispositif qui c'est trop loin à décrire là, mais qui va leur permettre de comparer le trajet
de vitesse,
de deux rayons lumineux qui sont l'un parallèle au mouvement de rotation de la Terre et l'autre perpendiculaire, ils se rendent compte que entre ces deux faisceaux qui devraient manifester une différence de marche, puisque du coup la lumière devrait être dans un cas portée par le mouvement de la Terre, dans l'autre cas contrariée, et dans le sens perpendiculaire c'est en travers, ils se rendent compte qu'il n'y a absolument aucune différence, et ils sont obligés. Alors l'expérience a été faite parce qu'on croyait que la Terre se mouvait dans un vent d'éther, dans un vent de...
À l'époque, en fait, ouais. Il n'y avait pas de vide, il y avait de l'éther.
On croyait que c'est rempli d'éther, une espèce d'atmosphère qui faisait... Bon. Et en fait, Einstein va s'emparer de cette expérience pour arriver à une notion beaucoup plus importante, qui est celle de Poincaré, qui dit, on va s'apercevoir qu'il est parfaitement... impossible de mesurer la vitesse des lumières. Je vais vous dire pourquoi. Einstein a un argument infaillible là-dessus et qui sonne le glas de cette mesure de vitesse des lumières, puisqu'il va dire, pour la mesurer dans l'absolu, il faudrait que je sois sûr que la Terre constitue un système au repos, un système de référence. Quel droit ai-je de dire que dans l'univers, seule la Terre présente vraiment cette particularité ? C'est totalement idiot. Je ne peux donc pas le dire, donc je n'ai aucune, et Poincaré va dire, il semblerait que l'impossibilité de mesurer un mouvement absolu soit une loi de la nature. Mmh. Donc on va ériger, comme le principe d'incertitude, on va ériger un problème de limitation des principes de mesure en une loi de la nature, puisque c'est une impossibilité inhérente. Alors ça, c'est vraiment le premier grand pas vers la relativité, c'est-à-dire que, on va dire une fois pour toutes, que la vitesse de la lumière... c'est pas une vitesse limite, pas du tout. C'est simplement, on s'est dit, voilà, pour simplifier les fameuses transformations que je suis obligé de faire, j'ai qu'un moyen, c'est de décider une fois pour toutes que la vitesse de la lumière, elle est égale à 300 000 km par seconde, enfin à quelque chose près, elle est égale à C, hein, la lettre C, comme on la résume en physique, et ce C, c'est un choix arbitraire. Ou plutôt, c'est ce qu'on va mesurer dans certaines conditions sur Terre, et on va décider que simplement on va adopter cette vitesse comme étant celle de tout signal électromagnétique qui nous renseigne sur ce qui se passe ailleurs. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir tout recaler. Et voilà toute l'histoire, en fait, de l'adoption de cette vitesse.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer une vitesse puisque c'est que des relations entre des objets qui ne sont pas fixes. Par exemple, Laurent Nottel, il parlait dans une de ses conférences qu'il prenait, lui, la vitesse de lumière, il mettait 1.
Mais c'est ce qu'a fait Poincaré.
Ça préfie beaucoup.
Voilà, j'allais vous dire, Laurent Nottel a une façon également comme Poincaré de dire, mais on ne va pas dire 300 000 km par seconde, ça n'a plus de sens puisque ce n'est pas une vitesse. Hein, c'est une constante physique, c'est une convention par laquelle on adopte cette constante pour pouvoir l'inclure dans les calculs.
C'est comme on a décidé par convention que 1 plus 1, ça fait 2.
Oui, enfin, c'est
une convention communautaire.
C'est une constante physique, contre, comme la constante que, de Planck, voilà. Comme d'autres.
Et c'est des constantes à laquelle on peut changer, ça ne changera pas les équations, toutes les équations. C'est-à-dire que si on dit que la vitesse de lumière maintenant c'est 3 km par seconde, ça ne change rien dans les équations qui.
Mais ça change dans les observations.
Dans les observations, par contre, ouais, c'est autre chose.
Alors, donc, ça, c'est l'interprétation de l'expérience de Michelson, c'est la conséquence sur l'adoption de constantes physiques. Et moi aussi, mon cher Fabrice, je vais clore pas très longtemps. Je viens de vous parler là de ce qu'on appelle la relativité restreinte, c'est-à-dire en fait la relativité spéciale, comme disait Einstein lui-même. Eh bien, rapidement, donc, je ne vais pas parler de transformation de Lorentz, on a compris le principe, mais je vais vous parler de la relativité générale, parce que pour l'instant, on a établi, ce que je viens de vous raconter, c'est valable tout le temps, mais si vous voulez, ça a été établi à partir de systèmes qui étaient en mouvement relatif, disons, on va dire galiléen, c'est-à-dire qu'un système se meut par rapport à l'autre selon un mouvement rectiligne uniforme. Einstein va dire, qu'est-ce que ça veut dire rectiligne et uniforme dans un monde où on ne sait même pas ce que c'est une ligne droite, parce qu'il faudrait la mesurer par rapport à quoi? Si je me mets sur une courbe et que je définis que tout ce qui est parallèle à mon mouvement c'est droit, c'est fichu également.
Donc c'est le problème des dessinateurs, c'est pareil, on peut
pas. Il va généraliser la relativité à la relativité, donc c'est ce qu'on appelle la relativité générale, pour tout système en mouvement relatif, quel que soit l'état de ce mouvement. Notamment, il est un état de mouvement qui pose problème, c'est si un des deux est accéléré. Donc l'accélération, c'est... Alors là, j'ai tout de suite arrivé à l'argument clé de l'exemple de l'ascenseur d'Einstein. C'est très simple, si vous êtes dans un ascenseur suspendu quelque part dans le vide, loin de tout, vous flottez dans l'espace comme dans la navette. Si maintenant je vous tire par un bout, mais très fort, suffisamment fort pour que vous accélériez, que vous ayez l'impression que finalement votre vous ayez en accélération, eh bien ça va faire comme si vous êtes sur la Terre, vous avez l'impression finalement d'être debout dans un ascenseur qui est suspendu au-dessus de la Terre. C'est-à-dire que vous avez exactement la même impression que si vous étiez soumis à un champ de gravité. Et alors le clou de tout, Einstein va dire, imaginons quelque chose qui est suspendu dans l'ascenseur, il va peser 1 kg, par exemple, le petit truc qui est suspendu, et c'est exactement comme si je tirais sur l'ascenseur et que je lui fasse prendre une accélération de 10 mètres par seconde chaque seconde, et le truc, il pèserait 1 kg également. Donc il va dire que finalement, l'inertie ou le champ ou la masse gravitationnelle, c'est la même chose. Et surtout, ce qui est très intéressant, et je vais finir par là, si vous envoyez un pinceau de lumière qui va en ligne droite, et si vous vous éloignez de ce pinceau de lumière à une vitesse accélérée, vous allez le voir se courber par rapport à vous. Et comme cet éloignement accéléré, ça revient exactement à être suspendu devant une masse, eh bien, on va dire que les masses courbent les rayons de lumière. Et ça vient, et Einstein va dire donc, si les masses courbent les rayons de lumière, on peut le dire, puisque selon le principe d'équivalence, les phénomènes doivent être les mêmes, quel que soit l'état de mouvement du système. Donc si je vois une courbe ou une droite, ça doit être de n'importe quel système,
c'est le même mouvement. Ça courbe le rayon de lumière, c'est en fait...
C'est simplement l'apparence.
La vue qu'on a, voilà. En fait, c'est ça le courbe. C'était l'exemple principe du dessinateur qu'on avait
exactement.
Vu, en fait, entre
guillemets. Donc ça veut dire que simplement les transformations qu'il faut que j'applique pour établir le fait que c'est un pinceau de lumière... Ça veut dire aussi que la notion de ligne droite n'a plus de sens. Ça aussi, donc... On part sur une nouvelle géométrie, etc. Alors, on vous racontera, bien sûr, là, j'ai fait
un condensé.
Ce qu'on appelle un bruise en mauvaise langue morte,
ouais,
américaine.
En anglais, ouais.
Un balayage de cette relativité, un balayage général de la relativité. De la relativité générale.
Et restreinte.
Et on pourra vous donner de nouveaux éclairages. Alors, tout ça, je vous dis pas que ça sort d'un chapeau, mais on vous a dit la vérité. C'est difficile à trouver ça dans les bouquins. On va le trouver. Mais nous, à la Société d'Astronomie, on a créé notre commission d'astronomie théorique, justement, pour aller dans ces questions-là et pour y voir clair. Nous, ça ne nous intéresse pas, les formules. Je vous ai donné aucune équation, j'aurais bien été en peine, mais je crois que c'est pas du tout important. Ce qu'il faut, c'est comprendre le principe et la nouvelle mentalité qu'il faut avoir pour rentrer dans cette perception du monde.
On va vous rappeler, merci Daniel, que pour venir à la Société d'Astronomie, vous êtes pas obligé de faire des mathématiques. Il n'est pas obligé que les mathématiques ne sont qu'un outil de formalisation comme un autre. Donc, c'est pas une science. Simplement, ça permet de formaliser et puis de faciliter certaines choses plus tard. Donc, c'est vrai que là, comme tu l'as fait très bien, c'est vrai que c'était pas abordable pour tout le monde, mais j'espère que tout le monde a appris quelque chose au moins.
C'est simplement que les choses, quand on les voit, elles sont pas forcément comme on les voit. Et il faut, la science est là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'image déformée, un peu comme un miroir qui nous déforme, rétablir le vrai visage des choses.
Mm-hmm. Mais l'histoire de ton ascenseur, là, c'est un peu ce qu'on le voit régulièrement, on a l'expérience régulièrement, nous, sur Terre. C'est, par exemple, on va prendre l'exemple de la navette spatiale. Quand la navette spatiale décolle, les astronautes subissent ce qu'on appelle des G. Et ils peuvent être déjà en état d'apesanteur, c'est-à-dire en dehors de la gravitation terrestre, et continueront à être assis sur leur fauteuil jusqu'à ce qu'on coupe les moteurs de la navette. Et là, ils vont flotter, puisqu'il n'y aura plus d'accélération.
Bien sûr.
Donc c'est vrai que
c'est l'accélération qui nous fait coller à la Terre, ou alors l'attraction par les masses. Mais en fait, ça équivaut physiquement à la même chose.
Tout à fait, c'est vrai que c'est un bon exemple, la navette, physique, parce que c'est vrai qu'ils sont, quand ils arrivent en, plus ils accélèrent la navette, ils sont accrochés à leur fauteuil, et c'est vrai qu'ils vont arriver à un endroit dans l'espace qui, à la rigueur, s'ils se rapprochent, ils allument pas les réacteurs à une vitesse importante en se rapprochant de la station, mais c'est vrai que les gens qui sont à quelques kilomètres près au niveau de la station, eux sont en apesanteur, tout simplement, puisque, en fait, ils ont pas d'accélération. Faut savoir notamment que dans 2001, l'Odyssée de l'espace, si vous voyez la navette ou la station, en fait, ils la font tourner sur elle-même pour lui créer une accélération, pour créer une fausse gravitation. C'est une des techniques qui serait utilisée notamment sur les futurs vaisseaux qui voudraient voir des vaisseaux qui partiraient très très loin. Ils savent très bien que l'homme a une très grande difficulté à vivre en apesanteur. On voit bien l'état dans lesquels reviennent nos cosmonautes et astronautes, etc., sur Terre, malgré qu'ils face des exercices physiques, ils ont de très grandes difficultés à arriver à tenir debout sur Terre. Donc c'est vrai que ça change beaucoup le corps humain. Donc en fait, l'idée, ça serait de faire tourner les vaisseaux sur eux-mêmes pour créer une petite accélération, comme tu le disais, l'histoire de la pomme, tirer petit à petit et tourner à une vitesse qui serait proche en similitude de la gravitation terrestre, pour qu'en fait les gens aient l'impression d'être sur Terre. Maintenant, même ce qui est intéressant, c'est vrai que quand on regarde les anciens films les anciens films de science-fiction qui géraient pas du tout ça. Maintenant, les nouveaux films de science-fiction commencent à le gérer. Les nouvelles séries de science-fiction qui sont dans l'espace font toujours tourner leurs vaisseaux, etc.
Moi, je voudrais bien adresser un message aux auditeurs, aux gens en général. C'est bien les films de science-fiction, c'est bien de s'amuser. Mais alors, bon sang, la science, ça fait depuis un siècle édicter un certain nombre de principes comme la relativité. Il n'y a pas une personne sur 100 qui comprend, encore quand je dis une sur 100. Et parmi les professionnels de la science, il y en a peut-être un sur 10. C'est quand même grave. Alors on fait des modèles cosmologiques qu'évoquait Fabrice, avec des 11e dimensions, des machins, mais enfin, faut arrêter de délirer, il faut déjà commencer par comprendre le principe même de ce qui nous entoure. Et le principe de la relativité, c'est pas un truc d'intellectuel, c'est un truc qui est vraiment... Qui montre qu'on a compris ou qu'on n'a pas compris l'univers qui nous entoure, puis c'est tout.
De toute façon, l'histoire de l'univers en 11 dimensions, c'est une preuve flagrante que définitivement, comme disait Jean-François Gauthier, l'univers n'est pas un objet de la physique, parce que les 11 dimensions en physique, ça n'en trouvera jamais. On en trouvera comme... D'ailleurs, leur univers est très clair, il y a 11 dimensions mathématiques et 4 qui sont appréhendables de manière physique. Donc de toute façon... Ce n'est pas de la physique.
Voilà.
Merci Fabrice. Nous retrouverons pour la prochaine émission... le premier lundi du mois de juin, pour la dernière émission normalement de la saison. D'ici là, n'oubliez pas les phénomènes importants dans les prochains jours.
N'oubliez pas les rendez-vous, le ciel de Nantes du 20 juillet.
Le ciel de Nantes du 20 juillet,
on a oublié de parler d'une conférence. Bon, la première de l'année prochaine, ça sera
au mois d'octobre.
Hein,
le 11 octobre, je crois.
Je vais pas dire me tromper dans la...
Vous allez sur le site internet de la SAN, san-fr.com, et vous avez dans l'agenda... la date de la prochaine conférence.
C'est Michel Mayor qui a découvert une première planète extrasolaire. Et puis, par contre, on vous annonce aussi une conférence au mois de juin, le 26, je crois. 26 ou 27, on n'a pas encore la réponse.
On fera ça la prochaine émission, vous aurez la date définitive.
Voilà. Parce que ça sera donc un auteur qui est invité par un de nos partenaires libraires et puis qui va par le Forum du Livre, on peut le citer, puisqu'il y a une émission là. Et donc, ça fera une conférence extracycle.
Tout à fait, une petite conférence bonus. Pour l'année prochaine. Donc, rendez-vous la prochaine émission. N'oubliez pas le site internet de la SAN, san-fr.com, pour avoir des petites informations. N'hésitez pas à venir nous voir un vendredi soir à partir de 20h30. au local de l'association, 35 Boulevard Louis Millet. D'ici là, portez-vous bien, observez le ciel, profitez-en, il y a les planètes qui se rapprochent. Faut en profiter puisque ça va durer jusqu'à la nuit du mois, comme vous l'a présenté notre ami Pierre Simoneau. Tout de suite, on vous laisse en compagnie de Strelle Talk.